Une production du Studio SF.
J'avais le goût de commencer avec un son comme ça. C'est fait. C'est réussi, les amis. J'espère que je t'ai surpris une petite affaire. OK, peur de rien, je l'ai fait trois. Tu vois, je commence à être à l'aise là, avec les débuts. Hein? On se sent plus lousse, tout le monde. Hein? Garde, ça n'a pas besoin tout le temps d'être hein, trop formel. Ben, merci d'être à l'écoute, les amis. J'espère que vous êtes de bonne humeur. Et je vous souhaite aujourd'hui qu'une personne âgée vous donne un caramel. Ça m'est arrivé il y a pas longtemps, puis j'ai trouvé ça vraiment le fun. Ça a fait ma journée. J'ai dans un café italien et juste un monsieur qui m'a pas dit un mot. Il m'a donné un caramel. Puis je me suis dit qu'à quelque part, il y a quelqu'un comme j'ai fait quelque chose de correct à quelque part pour recevoir ce petit sucre. Le podcast d'aujourd'hui, j'ai un invité super. Je suis vraiment content. C'est un invité que vous connaissez fort probablement. C'est Stéphane Rousseau. Mais ce que j'aime de recevoir Stéphane Rousseau au podcast, c'est que c'est pas un gars qui fait des podcasts. C'est pas un gars qu'on voit dans la sphère des podcasts. Donc, ça fait en sorte que on a comme accès à une autre version de ce gars-là qu'on a vu un peu partout. Mais là, c'est très décontracté. On parle de plein de choses. C'est vraiment un artiste multidisciplinaire. Il fait un peu tout. Très, 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 très humble. Il semble pas impressionné de sa personne, puis c'est quelque chose que j'admire quand même. Tu sais, c'est pas de la fausse humilité. Tu sens une espèce de ah non, c'est ça. Là, fait qu'on a, eu droit à plein d'anecdotes, conversation super le fun. Puis il y a eu une couple de fois où je suis un peu sorti de ma tête pour faire t'es en train de jaser avec Stéphane Rousseau, moi, là. Tu sais, c'est quelle chance, c'est quand même le fun. Fait que c'est un gars qui fait ça depuis 40 ans. Il a commencé d'un cabaret avec Roméo Pérus, ça n'a pas d'allure. Il a fait des bars de danseuses. Il avait 13 ans, il faisait des jokes, il compte tout ça. On a parlé de... Au moment où on a enregistré le podcast, il exposait dans une galerie d'art ses œuvres parce que c'est aussi un artiste visuel. Donc, on a parlé de tout ça. On a couvert plein d'affaires. J'étais vraiment, vraiment content qu'il prenne le temps de venir s'asseoir. Il me fait beaucoup rire juste par son naturel. T'sais, il est parti à fin du podcast, puis comme « OK, hello, come by ». Puis c'est super naturel, puis il revient deux secondes après. J'avais une casquette, moi, puis il avait une casquette. Fait que je sais pas, je le trouve drôle, puis j'apprécie vraiment, vraiment qu'il soit venu s'asseoir avec moi. Donc bref, voici une belle discussion que j'ai eue avec Stéphane Rousseau.
Vous écoutez présentement dans vos douces petites oreilles « J'ai du temps pour discuter ». Merci d'être là.
Ouais, c'est Jay, du temps qui discute. Ouais, c'est Jay, du temps qui discute.
All right. Hey, Steph, merci vraiment d'avoir accepté mon invitation.
C'est parti, là. J'ai l'impression
que c'est parti. C'est parti, c'est on. C'est
là. Je suis proche du micro, tu me dis. Je peux pas être plus proche, là. Man, je sens. Ça sent fait le roi.
Comment tu vas?
Super nice.
Ça va bien?
Oui.
J'imagine qu'on te parle full de ton expo en ce moment. C'est sûr que c'est ça.
Ben oui, c'est pas mal ça qui est dans mon esprit. Puis,
c'est trippant, en
dans mon actualité, oui. Vraiment trippant.
Ouais?
J'ai capoté, gros délai. Puis là, j'arrive de Art Basel à Miami. J'ai passé une semaine là-bas. Ça a été tellement malade mental.
Ah ouais, hein?
Ben, dès le premier soir, je suis arrivé là-bas, puis j'étais avec Yves Laroche, mon galeriste, puis avec Marisol, une de mes chums. Puis dès le premier soir, je me retrouve avec les gars de Mural, puis ils m'amènent dans un party, mais le party le plus underground de Miami.
Non!
Un truc de malade. Puis là, je tombe sur Okuda, qui est un des artistes que je capote le plus. Puis là, je suis là, puis c'est comme si j'étais avec, je sais pas moi, pas Dali, j'exagère un peu. En tout cas, j'étais avec un super street artiste malade. Là, je me retourne, puis il y a Tristan Eaton, qui est un autre artiste que je capote dessus. Là, les deux sont même party. J'ai chillé là-bas assez tard, malgré mon âge.
L'as-tu parlé?
J'ai pas osé leur parler. Je voulais pas les déranger. Puis là, je cherchais tout le temps une fenêtre pour leur parler. Puis à un moment donné, il y avait un bon moment, puis il y a une fille qui m'a reconnu, qui m'a jasé. Là, j'étais « Non! Pas là! » It was too late. Fait que je l'ai pas dérangé, puis les gars me connaissent pas, puis il a commencé à vendre ma salade à 2h30 du matin, tu sais.
C'est hello, dur vendre la salade à cette heure-là.
Tu sais, c'est ça. Fait que, juste de savoir, là, ça me faisait super plaisir.
Oui.
Puis j'ai trippé toute la semaine, ça a été vraiment au-delà de mes espérances. C'est tellement... Je sais pas si t'as déjà eu la chance d'aller à Miami.
Je suis passé, là, rapidement, il y a deux étés. En bateau, là, on a traversé le petit truc puis on est revenu.
Mais particulièrement pendant le Art Basel, c'est malade parce qu'il y a sept ou huit festivals d'art visuel en même temps. Fait que t'as le street art qui est bien, bien fort avec le Wynwood, qui est tout un quartier qui était défavorisé, qui ont tout revampé avec tous les meilleurs artistes du monde qui sont venus peindre les murs, comme à Mural à Montréal. Mais ouais. Là, t'es en immersion totale là-dedans, puis c'est complètement dément. C'est que ça, puis c'est devenu vraiment une industrie, mais c'est fascinant. Puis après ça, t'as 7 festivals qui durent 3, 4, 5 jours chacun. Le Art Miami, le... En tout cas,
c'est la première fois que tu y allais?
C'est la première fois que j'allais. L'année passée, je l'avais manqué d'une journée en me disant, m'arriver le lendemain, c'est pas grave, il va rester des affaires. Faux. Il reste plus rien le lendemain, comme n'importe quel bon festival.
C'est ça.
Ils ont tout rappé.
Le lendemain du jazz, je vais peut-être tomber sur Stevie Wonder. Ça. Non, c'est ça, il est rentré. Là.
Ouais, il était rentré. Exactement. Fait que c'est ça qui m'est arrivé l'année passée. Fait que là, cette année, je me suis dit, là, fuck, c'est du 3 au 8. I'm gonna be there. Puis là, plus ça s'approchait, plus je m'apercevais que, en fait, il faut que tu arrives un petit peu avant. Si tu veux y voir travailler, parce que du 3 au 8, c'est fait.
C'est fait. Ah.
Fait que moi, ce que j'aime aussi, c'est les voir.
L'exécution.
Il y a un gars, Saturno, qui a fait 2 murales, mais de démentiel. T'es là. My God, c'est malade. Là,
t'aimerais-tu ça, faire des murales?
J'aimerais ça l'essayer un moment donné. Je te dis pas que je me... Rien, t'sais, je referais pas ma vie en faisant des murales. Non, là, non, pas non. Mon âge, puis c'est du stock. Je l'essayerais pour le fun
ben
de
oui.
le faire, t'sais.
Comment te... Parce que tu sembles quand même commencer à... Tu sais, à bien connaître le milieu de l'art visuel. Comment t'as commencé à connaître ces artistes-là? Comme, parce que, tu sais, des fois, il y a des milieux de même, des nouveaux milieux où je fais crème, je suis attiré, je sais pas par où commencer. T'sais.
Ouais. Ben moi, j'ai commencé vraiment, écoute, il y a peut-être 20 ans avec des Jean-Michel Basquiat, puis... Des Picasso de ce monde. Là. C'était vraiment dans les grands musées. Quand, en tournant en France beaucoup, m'a dit, c'est là que ça a commencé à partir parce que tu as accès à bien plus de monde, puis de Keith Haring, puis tout ça, des gars qu'on devrait connaître parce qu'ils sont de New York, puis ils sont d'à côté, mais qu'on connaît pas tant que ça. Puis c'est eux autres qui ont commencé le street, qui ont amené le street art dans les galeries d'art, en fait, puis qui ont démocratisé l'art, puis tout ça. Puis, ben, un en appelle un autre, là. Quand tu commences à les découvrir, ben, là, il y en a un autre, mais tu connais pas ça, faut que tu. Fait que plus j'en faisais, plus j'en découvrais, puis encore aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y en a tout le temps.
Ben oui.
Des centaines que tu connais pas, là, mais ça me fascine. Moi, j'aime ça au bout, je capote.
Mais je trouve ça tellement cool que t'es. J'ai croisé. Gabriel a la titée, Pony, la semaine passée.
Ouais, ouais.
Puis, que t'as croisé récemment, ouais, t'es allé voir ton expo, en tout cas, puis elle était comme agréablement surprise dans le sens, c'est comme, ah, il fait de l'art visuel, comme, tu sais, c'est pas juste un artiste qui débarque, puis fait, ben, j'ai les moyens de, j'ai les contacts pour whatever, tu sais.
Ouais.
Tu le fais pour vrai, puis. Est-ce que tu te sentais comme imposteur? Est-ce que tu as encore ça aujourd'hui?
Je me sentais pas imposteur à ce niveau-là. Je me suis déjà senti imposteur dans d'autres facettes de ma vie. Mais là, sincèrement, il y a toujours, tu te demandes toujours si t'es légitime. Mais je fais ça avec beaucoup de passion depuis toujours. Je dessine depuis que je suis gamin, vraiment.
T'as ton style à toi aussi, quand même. C'est ça qui est cool.
Ben ça a été quand même long, là, parce qu'au début, j'empruntais, comme on fait tous, là, en humour ou ailleurs. On s'inspire d'eux. Puis à un moment donné, plus tu t'en vas, plus tu peaufines ton affaire. Fait que c'est vrai que là, j'étais très, très touché de voir plein d'artistes de tout acabit, puis des milieux complètement différents, des gens du street, des gens de l'illustration, du monde de Baie-Saint-Paul qui peignent des pêcheurs, d'autres qui sont venus voir l'expo, c'était comme « Oh my God! » Puis là, j'ai compris aussi que c'est une famille, puis ça se tient quand même pas mal. En même temps, il y a eu beaucoup de curiosité, puis je sentais qu'il était pas déçu, il était comme « Ok, t'es légitime », puis ça m'a touché, puis j'avais envie, sincèrement, quand je peignais, là, j'étais là « Écoute, peut-être que je vais faire ça une fois dans ma vie. J'espère qu'il va en avoir plein d'expos. On ne sait jamais de quoi l'avenir est fait. Puis je me disais, je veux que ça soit sa coche puis que le monde fasse « OK ». C'est vrai qu'il fait longtemps qu'il en parle, mais là, il a fait ce qu'il avait à faire puis c'est bien fait. Puis on est content de...
Quand est-ce que tu as fait ton premier atelier, comme que tu as passé du dessin à ce que ça devienne quelque chose de plus sérieux?
Ben, écoute, ça, c'était ma première expo vraiment solo. Mais j'avais déjà exposé... À certains moments dans ma vie, d'autres parce que j'ai eu différents styles, différentes passes. J'avais exposé dans le coin de Québec des aquarelles pas mal torturées. J'avais exposé à Paris de l'art digital, espèce de print que j'avais dessiné, que j'avais scanné, que j'avais colorié à l'ordinateur, puis ça, j'avais fait ça au Bataclan dans le temps.
Arrête!
Ouais, dans le temps, ça commençait à prendre forme. Moi, j'étais en show au Bataclan, et au café du Bataclan, ils présentaient tout le temps des œuvres d'art. C'était comme une galerie-bar, là, tu sais. Puis là, quand j'avais signé au Bataclan, je disais, OK, je signe au Bataclan, mais me prenez-vous dans la galerie à côté? Fait qu'il m'a dit, ben oui, ben cool. No problem. Fait que j'avais présenté ça là, mais c'était pas officiel comme là, c'était officiel.
Ouais, ouais.
C'était plus... puis c'était comme... Je m'en étais même pas occupé dans le sens que j'avais mis mes œuvres là. J'étais concentré sur mon show. C'était la première fois que j'étais à Paris. Là, mes œuvres, je m'en sacrais.
C'était la première fois que tu faisais un show.
Ouais, c'est ça.
T'étais en résidence au Bataclan?
Ouais.
C'était en quelle année?
Ça, j'ai fait... La première fois, j'ai fait 45 soirs. C'était en 2001.
Tabarnane, 45 quand même!
Ouais, ça a été vide pas mal tout le long.
Non, c'est pas vrai!
Ben parce qu'il y a eu les attentats du fameux 11 septembre. Moi, je commençais le 12 septembre.
Non.
Fait que ça a été rough. Mais le bouche à oreille a fait en sorte que ça augmentait à tous les soirs. Mais on est parti vraiment de genre 7 personnes.
Non!
Moi, j'avais 4 musiciens, écran géant, scratch vidéo, galerie d'art à côté, 20 œuvres. Puis là, t'es là, what the fuck? Ça paraissait. Moi, je ne savais pas qu'il y avait cette personne parce que à l'époque, j'étais bien accompagné puis tout le monde s'était occupé pour rentrer du monde gratos, tu sais.
Ouais.
Fait que j'arrivais tout le temps à jouer devant 200 personnes, mais finalement, il n'y a pas 200 personnes qui avaient payé. Fait que moi, je savais pas que ça allait si mal que ça, tu sais. Puis que je mangeais mes bas, en fait, parce que je mangeais vraiment mes bas.
Ah.
Puis à la fin, quand... Mais à la fin, le bouche-à-oreille a fait qu'on refusait du monde.
Wow!
Fait qu'en 45 soirs, quand même... Il était trop tard, le mal était fait, parce que c'est pas long que dans des villes comme Paris, ça te coûte tellement cher que moi, j'ai mangé 300 000 persos.
Ah, fuck! Non!
Ouais, j'ai mangé tout ce que j'avais fait au Québec dans les deux dernières années. Je l'ai mangé là, en 45 soirs. Fait que ça, j'ai pogné de quoi, tu sais, je m'attendais
Qu'est-ce
pas
Qu'est-ce qui t'a amené en France?
C'est un gars qui s'appelle Pascal Légitimus, qui faisait partie des inconnus, comme les RBO de la France. Puis lui, il m'avait vu au Festival Juste pour rire. Mais souvent, j'ai été approché au Festival Juste pour rire par des équipes de Français qui débarquaient, puis ils disaient « Ça te tente-tu de venir essayer? » Puis lui, je savais qu'il avait fait Anthony, puis ça s'était bien passé avec Anthony Cavana, puis... il connaissait déjà le Québec assez bien, puis il était bien chum avec Denis Bouchard qui a fait ma mise en scène dans le temps. Mm-hmm. Fait que là, tout a fait en sorte que c'était le bon timing. Je suis parti avec lui. On a fait la Suisse pour commencer. Montreux, ça a été vraiment trippant. Ça, j'avais capoté, là, vraiment. C'était au-delà de mes espérances à Montreux, là. Standing ovation qui finissait plus le premier soir, j'étais là. What? Puis,
c'est la seule fois que c'est arrivé.
Non, je faisais... C'est parce qu'en fait, moi, j'étais pas au courant pendant tout, mais je répétais un numéro que j'avais écrit sur le sida et qui finissait avec une toune de Freddie Mercury et que je chantais assez bien. Puis quand même, pour pousser Freddie, il faut pas que tu sois gêné quand même, là, tu sais. Puis ce soir-là, je pratiquais à Montreux, sur le bord du lac Léman. Je marchais. Je venais d'arriver en Suisse, puis j'étais un peu poqué du décalage. Puis là, j'étais là, faut que je sois concentré full pin, parce que c'est quand même un gros show, j'ai jamais fait ça. Puis là, je marche le long du lac Léman, puis je répète surtout ma toune, parce que j'ai peur de perdre les paroles, d'oublier les paroles. Moi, j'ai jamais fait de chanteur, parce que je retiens pas les paroles. C'est surtout ça, parce que j'ai de la voix, mais j'ai pas de cerveau. Fait que je marche, puis là, je répète mes paroles de toune. Puis plus j'avance sur le bord du lac Léman, je vois ce genre de sculpture au loin, qui a le bras d'un zèbre. Je suis là, my God, c'est drôle, il ressemble à Freddie Mercury sur ma pochette d'album. T'sais. Là, plus je m'approche, là, c'est Freddie Mercury sur ma pochette d'album. Là, j'arrive en dessous, puis j'ai mon album là, parce que je pratique mes paroles, fait que j'ai mon livret. T'sais. Là, je tourne. Puis là, je comprends une affaire. Je comprends plein d'affaires, en fait. Je comprends que la photo, je l'ai toujours trouvée bizarre, parce que j'étais là. On dirait que c'est lui, mais on dirait que c'est pas lui à cause du fini. En fait, c'est une photo de cette sculpture-là.
Non!
C'est pas une photo de lui. Mais il est de dos en silhouette. Mais tu sais, il avait quand même une texture. Mais c'est un bronze, en fait. Là, je suis là, mais comment ça se fait? Qu'il est sur ma pochette. Puis là, il est là devant moi. Puis là, je comprends qu'il est mort là, en Suisse. Il avait une maison en Suisse. Puis fait que là, je suis là, what? Fait que c'est pour ça que j'ai eu un assist standing de 25 minutes. Le monde pensait que je rendais hommage à Freddie Mercury qui est mort dans leur ville. Moi, je savais même pas. Fait que c'était assez malin. Fait que ça a été un gros, 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 gros hit, mais un peu par accident.
toi, t'avais-tu aspiré comme quand t'as commencé? Parce que c'est quand même, tu sais, moi, mettons, les gens vont souvent dire, crème, commencer en humour, c'est pas évident. Puis je suis comme, je dis pas que c'est facile, mais aujourd'hui, il y a plein de manières de commencer, tu sais.
Ouais.
Il y a beaucoup de places où jouer. Juste entre quand moi je suis sorti de l'école de l'humour en 2013 puis aujourd'hui en 2019 presque 2020, c'est fou comment ça a explosé, tu sais. Mais toi, quand t'as commencé, il y avait pas 22 manières de starter.
Je sais même pas s'il y en avait deux manières c'est de ça. Starter. Celle que j'ai utilisée était pas c'était fini ce monde là. Moi j'étais
les cabarets.
Ouais, cabaret, tu sais.
Comment tu t'es ramassé là?
C'est parce que quand ma mère est morte, ma sœur m'a engagé pour me faire oublier ça.
T'avais quel âge?
J'avais 12 ans. Elle m'a inscrit dans un concours amateur à Saint-Henri, dans un bar miteux. Les gens aiment pas quand je dis ça. C'est vrai, je me souviens de rendez-vous à Saint-Henri. C'était pas miteux, c'était super trendy. C'était hot. Fait que je m'en vais là-bas, puis en tout cas, il y avait un concours, ça durait sur un an de temps. Puis il y avait comme... Il allait avoir 500 participants, puis j'ai fini par gagner deuxième. Parce que la madame aveugle qui chantait, c'est sûr qu'elle a gagné la première place. T'sais. Puis non, je me souviens, plus ouais, je pense que c'était là. Puis en tout cas, j'ai gagné deuxième place.
Toi, tu faisais quoi? Tu chantais?
Je faisais des imitations.
OK. T'imitais qui, maintenant?
J'imitais Dong, surtout que c'était pas mal mon... C'était comme Dong qui était mon maître de cérémonie, puis j'amenais plein d'autres personnages.
T'avais fait ça toi-même?
Ouais, j'avais monté ça moi-même.
À 12 ans? Petit.
Ouais. Mais c'était déjà un bout que je roulais en famille, dans le salon, chez nous, pour la visite. Même mon père m'encourageait beaucoup à entertainer la visite, même que des fois, j'étais tanné, c'est avec ma patience. Mais j'étais comme la bête de foire à la maison parce que mon gars, c'est moi qui faisais le Père Noël, j'avais 7 ans, je pense.
Non! Fait que, ouais, tu retiens qui était de même dans ta famille?
Personne, vraiment. Personne. Mon père était funny quand même. Il était très sociable, mon père. Il aimait ça. Il parlait à tout le monde. Ça me dérangeait, moi, parce que partout où on allait, il fallait s'arrêter. Il parlait vraiment. Sincèrement, quand il est mort, j'en revenais pas au salon mortuaire. Le monde venait me voir. Bonjour, moi, c'est François. Je travaille chez Renault Dépôt. Ton père venait me dire bonjour à tous les jours. Puis après ça, le lendemain, tout de suite après, c'était. Moi, je suis cordonnier. Je travaille chez Boulevard Shevchenko. Ton père venait nous saluer tout le matin. La bonne femme. Moi, je suis Jean Coutu. On est toutes les filles de Jean Coutu. Puis après ça, c'était tous les magasins, tout le monde. Parce que mon père faisait sa tournée. Il aimait ça aller parler. Il amenait des petits cadeaux au monde. Il était fait. Tu sais, des fois, il pognait un itinérant. Puis il l'amenait manger à la maison avec
non.
Les autres. Ouais, ouais.
Arrête. Ouais, ouais, dans quel coin?
À Ville-la-Salle.
C'est bien, hein?
Il embarquait du monde sur le pouce. J'étais tout pogné en arrière entre deux personnes que je connaissais pas. Il aimait vraiment ça. Puis ma soeur, ça l'énervait aussi parce que nous autres, on était dans un camp de nudistes quand on était jeunes.
Oui.
On a grandi dans un camp de nudistes. Mon père le disait à tout le monde. Là, t'as pas envie quand t'es jeune qu'il embarque du monde sur le pouce. Puis on est nudistes, on fait du nudiste. Si jamais vous avez. Ma sœur aussi, on était là, tabarouette, peux-tu s'affermer à l'épicerie? Nous autres, on est naturiste dans le Vermont. Oui, oui, super champion. Merci, papa. C'est super, ça va bien aller à me rentrer à l'école la semaine prochaine. J'ai très hâte. Fait que, il aimait ça jaser, tu sais. Fait que ça, lui, je pense son côté un peu entertainer, là, peut-être que je l'ai pogné de là.
Voilà.
Mais il y a personne qui faisait ça chez nous, sinon.
Fait que toi, c'était juste inné, t'avais ça, t'aimais faire...
J'aimais ça faire rire. J'ai vu l'impact que ça avait quand mon père m'avait donné une vieille combinaison qui portait, tu sais, à l'époque, il y avait des combinaisons One ouais. Piece avec la trappe en arrière.
Ouais.
Puis ma sœur m'avait rentré comme tous les oreillers de la maison là-dedans.
Ouais.
Fait que j'avais comme 5 oreillers dedans. Puis quand je tombais, j'étais prêt à me relever. Et ça a été un gros hit.
Ça a été
mon premier hit.
Burlesque.
Burlesque à mort. Puis ma mère trouvait ça bien drôle. Puis la visite aussi. Fait que mon père me disait, va mettre la combinaison. J'allais mettre ma combinaison. Je revenais dans le salon. Le monde riait pendant 15 minutes. J'allais me coucher. Puis j'étais content. Fait que ça a commencé de même. Puis à un moment donné, j'ai commencé à imiter Elvis aussi, jeune. Puis là, ma mère m'a fait des petits foulards. Puis là, je lançais les foulards. Puis mes tantes, ils me sautaient dessus. Puis là, j'étais là. Ah, OK, il y a quelque chose là. Puis tranquillement, ben, c'est ça. Là,
t'amenais-tu ça à l'école? À l'école, t'étais-tu de même?
Ouais, un petit peu, là. Tu sais, quand il y avait des spectacles de fin d'année, spectacles de Noël, tout ça. Ça n'a pas été long que, même des fois, ils me faisaient faire le show dans l'année supérieure. Donc, quand t'es en cinquième, puis les sixièmes te demandent de faire leur show. J'ai dit, OK, il y a peut-être quelque chose là. Fait que j'ai fait. Ouais, j'ai commencé à créer des personnages. Je me souviens, je faisais un vieux qui disait toujours crayon. Crayon. C'était son. Ça, parce que t'avais pas le doigt de sacré, tu sais, fait que dans le spectacle de Noël. Crayon.
Ça me fait encore rire. Pour moi, ça marche encore.
Crayon, ça. J'avais fait un personnage aussi, à un moment donné, j'avais eu l'idée de faire un personnage de chien. Fait que je m'étais loué un costume de mascotte chez Ponton. Mon père m'amenait là sur Saint-Sulpice, dans le Vieux-Montréal. Ça a déménagé à cette heure sur Ontario, dans l'Est. Mais j'avais loué un costume vraiment de mascotte. La tête était grosse de même. Puis là, on m'avait dit, ouais, mais c'est pas terrible, on ne te verra même pas à la face. Là, puis là, j'étais, ouais, moi, je vais l'enlever dans le milieu du numéro, en tout cas. Puis au début, j'étais nerveux d'oublier mon texte. Fait que j'avais collé mon texte dans le nez du personnage. Là, j'étais... Bon, si j'enlève la tête, j'aurai plus mon texte. Faut que je sache au moins un bout du texte, en tout cas. Fait que j'arrive sur scène et j'avais laissé mon costume dans la loge avant. Puis quand j'arrive sur scène, j'avais un papier, c'était écrit « Bonne chance ». Puis quelqu'un qui m'avait décollé, il a saillé ma tête, lui, puis enlevé mon texte.
Non!
Puis c'était un concours, fait que ça devait être un autre participant.
Ah!
J'ai quand même gagné. Monsieur Personnalité 88.
Ah ouais, donc!
Ouais, monsieur!
Ah ouais, donc, t'as improvisé, quoi?
Ouais, j'ai improvisé mon personnage. Mais là, je savais finalement mon texte. Mais tu sais, des fois, on a assez peur que...
Puis, ouais. Comme, est-ce que tes parents, quand, toi, rapidement, j'imagine, te dis à ton père, hey, moi, j'aimerais ça faire ça. Est-ce qu'il t'encourageait? Il était-tu nerveux?
Ouais, mon père m'encourageait, mais il voulait que je travaille quand même. Il voulait que je gagne ma vie plus.
Sérieusement.
Sérieusement, entre guillemets. Fait que il m'a amené travailler à Shop avec lui. Mon père travaillait à Continental Can, ma mère aussi. Continental Can, c'était décoré métropolitain, 4000 employés, des boîtes à lunch. faisait du canage. Fait que moi, j'y étais un été, puis c'était vraiment.
T'avais quel âge?
J'avais 16 ans. Il fallait 16 ans quand même travailler là, mais c'était une bonne paye. Tu savais, ouais. À l'époque, je me souviens plus, mais le salaire minimum, je l'avais eu au Kentucky, il était 3,75 $. Puis là-bas, c'était, je pense, 12 $.
Oh,
c'était pas même game pantoute. Mais tu travaillais de nuit, puis il y avait vraiment des dangers de se couper, puis c'était vraiment intense quand même. Moi, ça m'a fait pogner de quoi. C'était vraiment comme un film de Charlie Chaplin. Là. Tout le monde habillé en chienne avec leur boîte à lunch, puis ça punch, puis c'est du travail à la chaîne, tout le monde. C'est vraiment capoté. Puis ce qui m'a fait halluciner, c'est quand t'arrivais là-bas. Moi, j'ai 16 ans, je débarque là-bas, puis tu rentres dans les toilettes le matin, puis là, tu vois, il y a comme 50 cubicules et t'as 50 bonhommes qui chient tout le temps. J'ai jamais entendu une affaire de même. C'était le Vietnam. C'était traumatisant. Là, pour un kid de 16 ans, tu dis « Oh my God! » Le vacarme là-dedans, puis les odeurs, puis tout. Fait que je suis sorti de là un peu traumatisé. Puis ce qui me fascinait aussi, c'est que tous les chums à mon père venaient me saluer. Ils me serraient la main, puis il leur manquait tous un doigt ou deux. Mon père, déjà, il en avait deux ou trois de coupés. Mais c'était vraiment une autre époque. Il n'y avait pas de sécurité comme aujourd'hui. Puis ils étaient tous sourds. Fait que tu leur disais « Bonjour. Pardon, quoi? » Fait que mon père était sourd aussi, parce qu'il n'y avait pas de bouchons pendant des années. Puis il y a tellement de bruit, moi, je mettais des bouchons plus des coquilles par-dessus.
Ouais. T'as fait ça un été de temps?
Un été. Puis j'ai compris que c'était pas ça que je voulais faire dans la vie.
Fait que t'as arrêté?
J'étais vraiment pas bon. Je travaillais vraiment mal. Puis à un moment donné, mon foreman m'a donné une tape en arrière de la tête. Ce qu'on ferait plus un employé aujourd'hui.
Non.
Et il m'a juste ciré par les cheveux aussi, parce qu'il voulait que je me fasse couper les cheveux, parce que j'avais les cheveux longs. Mais ce soir-là, je m'étais endormi. Moi, je devais mettre des couverts de canne dans ma chine. Puis ça descendait relativement rapidement. Puis tu préparais ton autre couvercle, ton autre paquet de couvercles. Puis tu déposais ça par-dessus. Puis là, c'est toutes des chaînes, ça arrive de partout. Fait que t'as la canne qui arrive d'un bord. Puis toi, tu mets le couvercle. Là, ça s'en va se faire remplir. Puis ça s'en va se faire souder. Puis mettre le... En tout cas. Fait que moi, à un moment donné, je me suis endormi. Puis quand tu t'endors, tu mets pas tes couverts de canne. À un moment donné, ça jam. Fait que... Mais je me réveille, mais comme j'ai des bouchons puis des coquilles, j'entends pas trop ce qui se passe, tu sais. Mais j'entends... Puis là, j'ouvre les yeux, puis je vois à l'autre bout les cannes qui tombent de même, mais je pense que j'ai scrappé 100 000 cannes.
Non!
Une affaire de malade. Tu sais, ils m'ont changé de département à ce moment-là, là, ce soir-là.
T'avais-tu terminé ton secondaire?
Je l'ai toujours pas terminé, mon secondaire.
Arrête!
Ouais, ouais.
C'est vrai, fait que t'allais travailler tout de suite.
Ouais.
L'école t'intéressait pas.
Ça m'intéressait pas, mais j'avais pas de facilité. J'étais, secondaire 5, déjà, j'avais pris des cours comme mécanique ajustage. Là. T'avais le choix entre pas prendre tes maths puis aller faire de la soudure. Moi, j'ai été faire de la soudure. Puis même là, je m'apercevais, j'étais là, c'est pas tout à fait moi, ça.
Oui, c'est ça.
Mais j'étais pas très studieux, puis j'avais de la difficulté à comprendre, puis mes chums, ils comprenaient tout. Puis moi, j'étais là, je déconnais beaucoup, je déconnais comme mes chums. On dirait que moi, ça suivait pas dans mes cahiers, tu sais.
Puis t'avais aucune idée de ce que tu voulais faire dans la vie, ou tu le savais, puis t'étais juste pas game de le dire?
Je savais que j'aimais ça, faire de l'humour, puis... Mais j'étais un peu perdu. Tu sais, le fait que ma mère décède jeune, on m'a un peu couvé aussi, on m'a un peu protégé. Puis en même temps, mon père n'était pas tellement présent parce qu'il fallait qu'il travaille, puis il travaillait fort. Fait que c'est plus ma grand-mère qui me gardait. Fait qu'elle, j'étais capable d'y en passer assez vite. Excellent bulletin. Regarde, signe là, ma tante, tout va bien. Fait que j'avais pas des notes très impressionnantes, là.
Ça a dû être top. 12 ans, là, perdre sa mère, c'est...
Ben, c'est très jeune, mais en même temps, je pense que ça a été beaucoup moins dur pour moi que pour ma sœur qui avait 17, qui, elle, comprenait tout. À 12 ans, il y a des bouts qui t'échappent quand même, tu sais. Fait que c'était pas... c'était plus dur après, là, tu sais, une fois quand tu réalises, ça prend une couple d'années, je pense, à vraiment réaliser que c'est pour de bon, là. C'est pas temporaire, cette situation-là, là. Parce qu'au début, tu sais pas trop, là. T'es comme un kid. Puis, ben, t'es un kid.
Voilà,
pas
littéralement. Comme un kid. Là, tu te ramasses d'un concours à Saint-Henri. Puis là,
ouais, c'est ça. Puis tu profites.
Pense-y pas.
C'est ça. Puis c'est, ça a fait ça. Tu sais, j'y pensais pas trop.
Fait que là, tu te mets à travailler. À ce moment-là, c'était qui tes idoles? Comme qui? Parce que, je veux dire, aujourd'hui, il y a plein de manières de consommer l'humour. Tu peux savoir où checker. À ce moment-là, comme t'avais-tu vu du monde faire ça? T'avais-tu entendu?
Ouais, mais surtout des Américains, moi. Mais je sais pas où c'est. J'ai pogné ça. Comment ça se fait que je me suis retrouvé à regarder? Je pense que peut-être l'influence d'un de mes chums aussi qui en consommait pas mal. Mais c'était bien gros Eddie Murphy, Richard Pryor, c'était Bill Cosby. Trois blacks.
Ben oui.
Ouais. Mais très solide. Bon, le dernier, on...
Malheureusement.
Il a comme viré. Ouais. Mais bon.
C'est quand même des c'est des solides inspirations à voir jeune. Eddie Murphy, Richard Pryor, là.
Ouais. Puis de l'autre côté, j'avais Yvon Deschamps, Sol, Les Cyniques. J'avais Plume la Traverse que j'aimais bien. Il y avait du Québécois aussi, mais il y avait beaucoup d'Américains parce que moi, j'ai été élevé à moitié en anglais et moitié en français. Parce que comme ma mère est décédée, c'est ma grand-mère qui n'est pas vraiment ma grand-mère, qui est ma grande-tante et qui est anglophone, qui habite en bas de chez nous.
C'est l'inspiration de Mme Jagger.
C'est un peu l'inspiration de Mme Jagger. Après ça, c'est un ramassis, Mme Jagger, de toutes les petites madames.
Ouais.
Puis elle s'est peaufinée à Magog où j'étais animateur radio, puis qu'il y avait toujours une bonne femme qui s'appelait Madame Giguère qui appelait pour des concours. Fait qu'elle a comme rappé la patente, puis c'est devenu Madame Jagger. Mais un Jagger, au départ, c'était un joint.
Je savais pas.
Ouais. Ah, d'ailleurs, il y a une anecdote tantôt que j'ai pas terminé parce que je suis parti sur autre chose, mais quand j'étais en Suisse et que j'ai eu mon standing au Passion de la mort. Là, je remonte dans la chambre d'hôtel, puis je suis comme « My God, c'est malade! » Je capote vraiment, puis c'est mon premier succès hors pays. Puis là, je suis là, c'était écœurant ce qui se passe. Puis je fumais des smokes dans le temps, fait que je sors mon paquet de cigarettes. Et là, je vois que dans mon paquet de cigarettes, j'avais un joint roulé que j'avais ramené du Québec qui a passé les douanes. Là, je suis là, « Oh my God, ça aurait tellement pu mal tourner! » Mais là, j'étais tellement content de l'avoir célébré. C'est ça que j'avais voulu. Puis là, je reviens au party. Puis là, mon gérant de l'époque, t'as de l'air buzzé. Ah ouais, c'est l'ambiance qui me fait ça. Je voulais pas y dire.
C'est jet lag.
J'étais trop content.
Fait que quand est-ce que t'as passé de la. Parce que là, t'as tes inspirations. Finalement, tu t'en vas travailler.
Ouais.
Quand est-ce que le switch s'est fait? Quand est-ce que tu t'es ramassé dans les cabarets?
C'est quand j'ai gagné le concours Saint-Henri, le Roméo Pérusse, qui était un humoriste phare de l'époque, mais qui était vraiment dans les bars. Lui, il a fait plus ça qu'autre chose dans sa vie. Là, il m'a demandé de l'accompagner pour faire sa première partie.
Quand t'avais 12 ans?
J'avais 13, ouais. Fait que là, on s'est mis à faire des... Il est venu vous rencontrer...
Il avait quel âge, lui?
Lui, il avait 60, à peu près.
C'est quand même un drôle de duo, là.
Ouais, on n'était pas un duo parce que...
Non, mais dans le sens, c'est quand même, tu sais, pour faire de la road puis de te rendre dans les bars.
Oui, ça, c'était particulier, là, sa route. mais j'étais pas le seul, dans le sens que il y en avait quelques-uns qui faisaient ses premières parties, puis certains soirs, c'était moi, tu sais. Puis il était venu rencontrer mon père. C'était un gars de Ville-la-Salle. Fait que mon père avait confiance. Au début, il nous accompagnait, puis à un moment donné, il nous a laissé aller.
Toi, tu faisais combien de temps?
Je faisais 15 minutes. Puis on faisait 3 bars par soir à peu près. Fait que lui, il faisait une demi-heure ou 45 minutes. Puis là, on changeait de bar, puis on allait en faire un autre. Des fois, on en faisait juste un quand c'était loin. Mais souvent, c'était 3. Puis il m'est arrivé une semaine, je me suis dit, on a fait 15 dans la semaine. Puis je recevais 50 piastres à chaque fois, moi.
C'est vrai.
Fait que là, mon père s'est fait tabarouette. Il était assez impressionné quand même, là.
Ben oui.
À 13 ans, 50 piastres 15 fois dans ta semaine. Puis je me souviens, quand j'avais fait ça, 15 bars dans la semaine, j'avais tout mis mon argent sur la table de cuisine quand je suis rentré à 3 heures du matin. Genre, j'avais tout rempli la table de cuisine. Puis quand je me suis levé le matin, toutes les billes étaient à terre. Puis j'avais insulté mon père.
Ah!
Mon père était comme, tu viendras pas flasher ton cash, sais-tu comment je travaille, moi, pour faire de l'argent, puis... Moi, j'avais pas compris ça. Je comprenais rien. Le matin, je me lève, j'étais sûr que mon père allait être super emballé du fait que son fils gagnait tant d'argent. Mais c'était un peu particulier. Aussi jeune, gagner autant d'argent.
Ben oui.
Je m'en achetais des bonbons.
Est-ce que vous n'aviez parlé de ça?
Oui, oui, on en a parlé direct le lendemain matin. Mon père n'y faisait pas longtemps pour... Fait que ça s'est réglé. Premièrement, je n'ai pas refait 15 shows par semaine parce que ça avait été un peu exagéré. Mais je faisais quand même du cash, puis je le mettais à la banque.
Puis t'allais comme... Tu rentrais tard, t'allais à l'école. Je comprends que t'avais de la difficulté à l'école à un moment
donné. Ouais, ça m'a pas aidé à l'école. Mais c'est sûr. Mais j'étais dans mes dernières années secondaires, on voyait que c'était pas ça ma tasse de thé. Puis après ça, j'ai pris des cours aux adultes. J'ai continué à faire des shows. Je voulais prendre des cours aux adultes pour finir mon secondaire. C'est parce qu'il me manquait juste histoire que j'avais pas terminé. Puis finalement, je l'ai jamais fini.
Bon.
Fait que
tu sais pas la fin de l'histoire, dans le fond.
Je sais pas la fin de l'histoire. Ça, c'est, si c'était la fin du... ça serait super, mais on finit pas là. On reste encore de la discussion. Mais, ouais,
fait que t'as jamais arrêté de faire des shows. Fait que comment, quand t'es de 13 ans, comment le switch s'est fait? On dirait... Et t'as dû voir des affaires d'un bar qui avaient pas d'allure.
Ouais, vraiment. Mais tu sais, j'ai toujours continué à travailler quand même. Je m'étais pogné des jobs. Là. Je travaillais au Kentucky le jour, je faisais des shows le soir. Une fois que j'ai slacké l'école, là, à 16 ans, à peu près. Là. Ouais, je me pognais tout le temps une petite job. Je travaillais dans les salons de bronzage. Je travaillais, je lavais des bateaux l'été. J'étais concierge dans les écoles. J'ai travaillé comme vendeur de souliers.
Voyons!
Ouais, j'ai fait plein de jobs. Plein de jobs, puis trois soirs par semaine, je faisais des shows à peu près.
Encore avec Roméo Pérus?
À un moment donné, ça a slacké avec Roméo, puis il y en a d'autres qui sont venus me chercher. Le gros Bill. Le gros Bill, qui était un gars, il pesait 500 livres. Il était habillé avec un poncho, conduisait une van. Puis là, il nous embarquait. Il y avait tout le temps un humoriste, un homme fort, une danseuse, puis on partait faire la tournée des bars à Sept-Îles, puis un peu partout. Puis après ça, j'ai eu Pierre Stéphane, qui est un humoriste aussi de bar, qui m'a engagé pour faire sa première partie. J'ai eu Éric Martin aussi, qui m'a engagé. Puis qu'à un moment donné, il voulait me laisser sur le bord de l'autoroute parce que j'avais été plus drôle que lui. Puis il l'a pas pris.
Ouais. Non.
Puis il avait arrêté le char à Kanawaki dans la nuit pour me dire « Tu débarques ». Tu débarques, il n'y a personne qui me fait ça ici. Là, c'est moi le show. C'est moi le show. Non. Le main act. Puis il était super. Le bonhomme, il avait 60 ans, alcoolo, puis il voulait me crisser dehors de son char. Moi, j'ai 14 ans. Tu sais. Là, je suis là, moi, je sors pas du site. Dans la nuit, t'es fou, toi. Puis en fin de compte, c'est le dernier show qu'on a fait ensemble.
Parce que les shows avec le gros Bill.
Il est sorti du char pour venir ouvrir la porte.
Non.
Puis là, moi, j'ai rebarré les portes.
Ah!
Puis là, j'ai fait, moi, je pars avec le char, t'as laissé les clés dedans, c'est toi qui vas rester ici. Ah, puis là, il a fait, OK, tasse-toi, puis en fin de compte...
ça a bien fini quand même, très belle histoire.
On s'est pas parlé tout le long, puis il était vraiment alcoolo, il était sous, voilà, puis tout. Je me souviens, à l'époque, il y en a, là, je leur faisais faire des clés de poudre pendant qu'ils conduisaient. Ouais. Fouille dans mon coffre à gants, là, puis...
Fais-moi ça.
Avec trois danseuses dans la boîte de la vanne. Non, c'était assez...
Ton stock, ça ressemblait à quoi, ton matériel? C'était des imitations encore, j'imagine? Tu chantais un peu?
Ouais, beaucoup d'imitations. Je chantais pas mal quand même, mais tout le temps des tunes détournées. Puis mon gros hit, c'était Rambo dans le temps. Là. J'imitais une couple de vedettes de cinéma, ce que personne faisait, en fait. C'était pas trendy. Il y a personne qui avait pensé à ça encore. Là, fait que... Là, puis je me mettais en chess, puis là, ça excitait un petit peu l'audience, parce qu'il y a personne qui jouait côté sexy non plus.
Ouais.
Puis moi, je m'étais dit, ça va être ça mon créneau. Ça va être un humoriste sexy, ce qui n'existait pas.
Ouais.
Même, je me dessinais des produits dérivés, je me souviens. Mais sinon, je pourrais avoir un T-shirt avec ma face dessus.
Ah ouais, non!
Puis c'est comme il n'y a personne aussi qui s'habillait sharp pour faire des shows.
Non, en effet, mais de là aussi, l'influence d'Eddie Murphy...
Ouais, c'est ça, exactement. Mais ça se faisait pas ici, mais ça se faisait ailleurs, tu sais.
Mais c'est weird parce que c'est un des seuls. Puis tu sais, après ça, il y a eu toi, mais pour vrai, le milieu du mot n'est pas reconnu comme étant un milieu...
Non, mais après, ça a changé. Ça a bien changé. On l'a vu avec vous tous. Maintenant, tout le monde... Je dis pas que c'est moi qui ai ouvert la route.
Quand même, un peu.
C'est Eddie Murphy qui m'a ouvert la route, que moi, j'ai ouvert mon autre petit bout, peut-être, mais...
T'avais quand même cette vision-là.
Ouais, je me disais que ça se pouvait. Mais effectivement, ça a joué souvent contre moi aussi, parce que quand tu joues au beau gosse, ben c'est tout le temps touché, t'es-tu drôle vraiment, pourquoi t'attires du monde? Puis effectivement, qu'à un moment donné, j'avais 80% de l'audience, c'était des filles dans mes salles, puis
t'étais-tu,
ça criait plus que ça riait après une joke, ce qui est tout le temps un peu weird. T'essaies de... Tu sais, ça crie dans le milieu de ta montée, puis là, ça tue un peu ta joke, finalement.
Comment... Parce que comment tu te sentais par rapport aux autres humoristes? Est-ce que tu te sentais pas correct ou...
Pas correct, mais je sentais... Longtemps, parce que je chantais en plus, ça faisait chier ben gros les humoristes. Parce que c'était comme pas fair play, tu sais. On allait juste pour rire. C'était plus facile pour moi de décrocher un standing si tu fais une toune de Freddie Mercury à la fin de ton sketch, puis qu'elle est performante, puis que le monde la reconnaisse. Tu joues pas un peu, c'est pas tout à fait, quand tu fais des imitations, t'es pas considéré pur. Même encore aujourd'hui, souvent j'ai envie de faire un show vraiment strictement stand-up, parce que même mon dernier était pas mal stand-up, mais il y avait quand même des musiciens, puis il y avait quand même 3-4 tunes, je suis pas capable de m'empêcher. Puis des fois, je me dis, bon, pourquoi tu le ferais ton show de stand-up pur pour faire partie des 60 autres stand-up purs?
Mais puis pour prouver ça à qui, tu sais, dans le sens, si toi, ce que tu fais, c'est ta patente, ça t'appartient, puis...
Ouais. Mais en même temps, moi, je suis très, très friand de stand-up pur. J'aime ça, j'en consomme énormément, je l'ai toujours consommé. T'sais, mon petit bonheur, c'est toujours Comedians in Cars Drinking Coffee. J'aime ça parler d'humour, ça me fascine, j'aime le processus, j'aime l'écriture. Après ça, effectivement, me couper d'une partie de...
passion, d'une partie de toi, d'une partie de ton talent aussi. T'sais, c'est un mélange de plein d'affaires. Moi, je pense que des fois aussi, en humour, et comme inconsciemment, puis t'as beaucoup plus d'expérience que moi, mais des fois, on fait... Moi, je veux dire, quand j'ai accepté OD, c'était ça le stress. J'avais peur de ce que les autres humoristes allaient penser.
Ouais, ouais.
Pas ce que le reste du monde allait penser.
Non,
les
c'est ça.
Les humoristes.
Ben oui.
Puis à un moment donné, c'est pas long que tu réalises que ton unicité, c'est ce qui fait ton succès. T'sais. Puis de faire tes affaires, ben ça fait en sorte que tu fais pas ce que les autres font. Puis...
Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que j'en parlais dernièrement avec un autre humoriste. Puis j'avais envie, je disais, je pense que mon prochain show, il va être stand-up pur complètement. Puis il dit, pourquoi tu fais ça? T'sais? Ben, parce que j'ai envie de prouver aux autres humoristes.
C'est ça.
Puis là, t'es là. C'est pas la bonne raison. C'est pas une bonne raison.
Ouais.
Mais il y a un peu de ça, pareil.
Ouais, je comprends.
Ouais.
Mais est-ce qu'à un moment donné,
que je l'aurais pas fait. C'est comme sur une espèce de bucket list aussi. Parce que je sais que je peux le faire. Je sais que j'ai pas besoin des muses en arrière pour. Les gens seraient pas venus. Je suis pas un assez bon chanteur pour que les gens viennent juste parce que je chante. Donc, c'est parce que je suis drôle.
Ouais.
Mais est-ce que je peux être drôle sans avoir trois tunes?
Ben oui.
Mais oui, mais en même temps, je l'ai pas fait vraiment. J'ai toujours eu... Il y a une époque, j'avais 2,50 pieds sur la route. Là. J'en avais du stock.
Mais c'était l'époque
shows.
Aussi. Là.
Oui, oui.
C'était une autre époque. Ouais. La production de shows, c'était une autre affaire. C'était ça.
Oui. Ça, c'est plate que vous n'ayez pas vécu ça, parce que c'était quand même... Aujourd'hui, avec le recul, c'était quand même trippant là, d'avoir des vannes lettrées avec ton nom dessus, puis t'arrives, puis t'as de la pyro, puis tu sors du stage... quand j'avais fait le Forum de Montréal dans le temps, avant qu'il existe encore.
Il existe encore, mais il fait pitié un peu. Il y a un Tim et un Thaï Express.
Ouais. Mais ça avait été vraiment un gros trip ultime. Madame Jigger qui rentrait en Harley sur scène. Là, c'était... Puis en même temps, c'était ça le problème aussi. C'était comme... Quand tu vendais des tickets, c'était... Il n'y a plus personne qui te challengeait, tu sais.
Ah ouais? Il n'y a personne dans ton entourage, les gens avec qui tu travaillais? Et...
Ben, mon premier show avait tellement marché que le deuxième, ils ont fait « Vas-y, fais ce que tu veux. » Puis ça a donné un peu n'importe quoi parce que j'ai fait un peu ce que je voulais puis j'ai dépensé. On a fait autant de monde que le premier, mais on n'a pas fait une scène. Genre,
ouais,
parce que
ça coûtait cher.
Ça coûtait ben trop cher.
Ton premier show, t'avais quel âge?
Mon premier show officiel, c'était en 92. Fait quel âge j'avais en 92? D'après moi, j'avais 30. Je sais pas.
Ouais.
Je suis né en 66. On fait le calcul rapidement.
T'avais 28.
28, hein,
ouais,
c'est ça.
Ouais,
okay.
D'accord. Ouais. Non, c'est ça, là, j'ai dit ça par rapport à 66,
ouais,
2, 3, 66, 4, 5. Ouais. 20.
Non,
on est pourris.
Hein,
26.
26?
26.
Ouais.
Ouais. Quand même.
je fais le calcul encore. Il me semble que ça se peut pas.
Fait, comment tu comment t'as passé des bars de la job à ton premier show? C'est quoi qui s'est passé entre ces années-là?
Mais là, j'ai été faire de la radio. Parce qu'à un moment donné, j'étais en show dans un bar, mais en fait, au salon du ski. Puis un gérant, un gars qui a vu un potentiel en... j'en avais déjà un gérant avant. Puis là, cette fois-là, ce gars-là m'a vu, il travaillait à la radio, lui, puis il m'a dit, moi, je te suggère de rentrer à la radio, je pourrais te faire rentrer le matin dans une station genre à Magog. Fait que là, je fais OK. Puis là, il dit, tu seras pas aussi bien payé que ce que tu fais dans un bar, mais il dit, ça va t'amener à un next level, puis ça va te faire connaître d'une autre façon. Parce que mon stock était quand même pas mal vulgaire dans un bar, puis il fallait qu'il y ait un switch qui se fasse, ouais. Là, si je voulais être plus mainstream. Fait qu'il m'a amené à Magog et... je pense en une semaine, on était rendu numéro un. C'était tellement vite, ah ouais. Il y avait tellement rien qui se passait. Ouais. Là. C'était des émissions plates. Là, t'amènes du funny à la radio, ouais. Le matin. Pour Magog, c'était nouveau. Puis ça, tout de suite, là, c'est devenu un gros hit. Puis genre 3 mois après, Québec disent non, on le veut nous autres. Fait que c'était un plus gros marché. Fait que j'ai fait comme 6 mois à Magog, puis je suis parti à Québec.
Okay.
Faire le morning à Québec. Mais là, eux autres, il y avait de la compétition. Il y avait du Zoo, du FM 93 qui était très, très fort.
Toi, t'étais pour qui?
Moi, j'étais pour Chic FM. Et on n'a jamais réussi à être délogés. Là. Ils étaient trop installés. Eux autres, c'est une institution à Québec. Puis tu touchais pas. Même si on était leur gratté du monde, on n'était pas capable de prendre leur place. T'sais. Fait que j'ai fait 2-3 ans. Puis à un moment donné, j'ai fait... Moi, je suis tanné.
T'habitais là?
Ouais.
T'aimais-tu ça?
Ouais, j'aimais ça. Mais j'habitais à l'île d'Orléans pendant un bout. Ben de la neige là-bas.
Ouais.
Ça, j'ai pogné de quoi. Mais non, j'ai trippé quand même à Québec, vraiment. Mais après 3 ans, quand t'as pas de résultats, tu fais moins de fun, là, tu sais.
Ouais.
Puis j'avais dit à mon gérant, je dis, moi, je pense, je vais peut-être retourner dans un bar ou je sais pas, je vais monter un spectacle. Il dit, attends. Puis là, il s'est informé s'il y avait de la place à Montréal. Puis Montréal, on fait, OK, on l'amène. Fait que là, je me suis retrouvé à faire le... Il y avait pas de place dans le morning. Fait qu'ils m'ont fait faire le drive, le retour à la maison avec Mario Lirette. Puis on est devenu numéro un. Puis ça a été vraiment un gros carton. Là.
Tu devais préférer le retour que le matin.
Ben oui, finalement.
C'est là à 3h du matin.
C'est pas le fun. Pas le fun du tout.
Surtout à l'âge que t'avais. Là,
tu devais vouloir sortir. Puis moi, je sortais pareil. Fait que des fois, je dormais à la station. Puis je faisais des shows le soir aussi, ce qui était complètement dément. Là. Des fois, je faisais des shows à Montréal le soir quand je faisais le morning à Québec.
Non.
Là, je roulais de nuit une couple de fois. Là.
T'as eu peur?
Ouais. Parce que, tu sais, je me donnais des permissions, là, tu sais, sur l'autoroute. OK, je vais dormir juste 10 secondes.
C'est super dangereux.
C'est malade. Et pourtant, je l'ai fait souvent. Puis, dans le temps, t'avais même pas la petite bande qui t'avertissait.
Mais il n'avait pas, là.
Et que là, justement. Le cœur t'arrête, ouvre la fenêtre, tu te mets le bras dehors, tu mets la musique au bout.
C'est pas le fun. Là. Et faites attention si vous écoutez ça en genre, mais quand tu te réveilles, là t'es correct pour une demi-heure.
Ah ouais, là t'es. Mais des fois, c'est tellement dur. Souvent, je me suis collé pour dormir un peu, là, tu sais, mais je faisais ça. Alors, j'arrivais, je m'en allais direct à la station le matin. Fait que la radio, ça a été quand même un gros tremplin parce que j'ai appris vraiment une discipline de travail. Écrire des gags tous les jours, puis...
T'avais pas de writer à cette époque-là, tu devais être
On seul. Avait des writers à un moment donné à la station, des gars qui travaillaient pour nous autres, ouais, quand même pour la radio. Mais moi, j'écrivais beaucoup de mon matériel.
Mm-hmm.
Puis après ça, bon, ben, c'est KMF, ça a été quand même un gros hit. Fait 2 ans, puis là, moi, j'avais envie de monter sur scène. Fait que la deuxième année, j'étais comme plus là dans ma tête. Là. J'avais envie vraiment de monter mon show, puis on a fait le premier show.
Qui s'appelait juste Stéphane Rousseau?
Qui s'appelait probablement Stéphane Rousseau, comme à peu près tous mes shows.
Oui.
À la fin, j'ai commencé à mettre des titres parce que j'ai quelques billets chez nous. Là,
des billets d'or, des billets
plus,
de platine. Là,
Rousseau, 100 000, Rousseau, 100 000, Rousseau, 100 000. Je sais pas quel show, c'est quel show. Fait que j'ai fini par commencer à mettre des titres.
Fait que ton premier show, tu l'as écrit, comment tu l'as monté? T'as-tu approché une boîte de production? Y a-tu quelqu'un qui t'a aidé?
Ouais, ben c'est mon gérant de l'époque là, qui a approché Jean-Claude L'Espérance de chez Avanti.
Ouais.
Puis ça a été... J'ai pas pu savourer le premier succès tellement qu'il a été immense et que je l'ai même pas répété par la suite. Là. J'ai vendu presque 300 000 billets comme ça. Là,
wow!
Fait que moi, je me rendais pas compte parce que je savais genre que je sais pas, Ginette Renault en a vendu 400 000. Ouais. Fait que là, j'étais là, oh, fais chier, pourquoi j'ai pas vendu 400 000? Ouais. Tu sais, t'es trop con pour réaliser que c'est
ça, extraordinaire. Ça durait quelques années quand même. Là.
Ouais, ouais, ça, j'étais sur presque 3 ans, tu sais, cette tournée-là.
Fait que tu faisais plus de radio du tout, tu faisais ça à temps plein?
Puis j'étais comme porte-parole pour beaucoup trop de trucs en même temps. J'étais porte-parole pour Clorette, pour Cantel des téléphones cellulaires. J'étais porte-parole pour Sidekick de Lipton, qui était une sorte de soupe. J'étais porte-parole pour...
T'aimais-tu ça, faire ça?
Deux autres produits. Ben, c'était... Oui, c'était trippant quand même, mais on a trop pris, tu sais. À un moment donné, c'est comme trop, c'est pas, comme pas assez, là. J'étais... Une page sur deux dans le journal, c'était moi. Là. Fait qu'à un moment donné, ils avaient plus beaucoup le sentiment d'exclusivité. Fait que je les ai comme toutes perdues en même temps. Parce que là, j'avais été trop fort. Là,
ouais.
Puis là, j'étais down. Là, j'étais down quand tous tes contrats finissent en même temps. Ça change pas mal ta paye, là,
ouais.
Entre autres, et ta visibilité. Puis après ça, ben... Quand même, j'ai fait plein d'autres projets, j'ai enchaîné des spectacles. Puis
la fin de la première tournée, mettons, est-ce que t'as pris une pause ou t'as tout de suite enchaîné avec le deuxième show?
J'enchaînais pas mal tous les shows. Après le premier, j'ai pris une pause peut-être de 4 mois. Puis après ça, j'ai toujours enchaîné.
Puis là, tu sortais un nouveau spectacle. Il n'y avait pas de rodage à l'époque, dans le sens comme au bordel, c'était pas à coup de 15 minutes. C'était, on écrit un show, puis on le pratique dans les salles, puis c'est parti. Ouais.
Moi, je n'écrivais toujours... Plus que pas assez, là. Mon premier show, c'était 3 heures qui durait.
Ah.
Ouais, ouais. C'était épouvantable, ben trop long. Beaucoup de longueur.
Mais tu dois avoir du fun.
Fait que le lendemain, tu coupais, t'es la guette. Ouais. Puis là, tu finissais par avoir un show d'une heure et demie, mais il fallait que tu coupes 1h30. Là, fait qu'il y en avait du pas bon là-dedans. Là.
Puis le deuxième show, tu te dis, t'as mis le paquet. Qu'est-ce qu'il y avait à part Madame Jagger sur un Harley?
Ah non, mais c'était fou. J'avais une piscine hors terre sur scène. Les gars en coulisses, il n'y a plus de place. J'avais un décor, mais un décor là, tout en faune qui prenait toute la scène. Je m'étais inspiré du film Alien pour faire mon décor. C'était comme un peu organique, weirdo. J'avais un barbecue. Non, le barbecue, c'était dans le premier. Non, là, ça, j'avais la piscine hors terre. C'était mon voisin, un personnage. Mais j'avais lutrin. Je faisais monter un numéro qui était quand même... À part ma performance qui était vraiment moyenne là-dedans, je faisais Michael Jackson, mais l'idée était quand même pas mal. Je faisais monter 25 personnes sur scène. On les faisait passer derrière le rideau. Ils mettaient tous des toges, puis il y avait des chandelles, des vraies chandelles allumées. D'ailleurs, le feu a pogné 3-4 fois dans cette tournée-là. Dans les cheveux d'une dame.
Non!
Ouais, ouais, ben oui. Écoute, 25 personnes sur scène. Avec. Puis là, moi, je rentrais à Michael Jackson, puis j'avais la chorale, puis eux autres, il fallait qu'ils suivent. J'avais un gars qui faisait une choré, genre facile, puis les autres, ils avaient juste à faire la même chose qu'ils voyaient devant eux. L'effet était malade, mais le feu a pogné une couple de fois. Ça serait plus possible aujourd'hui.
Mais non.
Puis,
mais c'est sûr, c'était le party, c'est ça l'affaire, c'est que c'était un hostie de party.
J'avais un numéro du Cirque du Soleil où j'avais une table à peu près grosse de même. Ça durait à peu près 10 secondes. J'étais caché en dessous de la table, puis je faisais un contorsionniste, fait qu'il y avait un faux corps sur la table. Ça durait, je pense, 10 secondes, on rappait à la table. Pour ça, je faisais un extrait de Masque, tu sais, le film Masque,
oui,
de Jim Carrey. Le masque descendait, le masque était gros comme la pièce. Je l'ai encore d'ailleurs.
Ah oui?
Il descendait, moi je faisais la toune. Oui. En tout cas, je faisais un petit bout de toune. On rappait ça, 30 secondes. C'était n'importe quoi, tu sais. C'est là que je dis que vraiment, ils m'ont laissé beaucoup trop de liberté.
C'était comme des petits tableaux, genre.
Ouais, ouais, mais ridicule.
Mais t'as eu du fun, par exemple. Mmh. T'as eu du gros, gros fun.
Ouais, je me suis payé un trip, puis le monde avait aimé ça parce qu'il y en avait pour leur argent quand même. Là.
C'est clair. Le forum, t'as-tu aimé ça, faire ça?
Forum, c'était débile parce qu'il y avait... Bon, il y avait Jean-Marc Parent qui l'avait fait, mais ouais, je pense qu'on est les deux seuls humoristes à l'avoir fait ça. Puis après ça, quand j'allais voir des games de hockey, il y avait ma photo en grand dans le forum. Fait qu'à chaque fois que j'allais voir une game, quand même, j'étais comme... Tout le monde, c'est moi, ça? J'ai un petit velours. Après ça, on a fait le Centre Bell avec un autre show aussi. Fait que ça aussi, j'étais content. C'est quand même des... Mais là, tu vas le faire, toi.
Je le fais en janvier. Puis tu vois, j'ai... À un moment donné, j'étais allé voir Loud au Centre Bell.
Ouais.
Puis j'ai vu une de mes affiches. Puis j'ai pas réagi comme si c'était cool. Dans le sens...
Ça t'a stressé plus que...
Ben oui, puis...
Ouais, mais c'est parce que t'es pas fait.
T'es pas fait. Puis j'ai pas du tout agi comme si... Ouais, je suis rendu là, tu sais. Of course que ma photo-là, c'était vraiment comme... Tu peux prendre une photo avec, oh mon Dieu! Comme...
Ouais, oui.
J'étais un peu lame. Là. J'étais comme, ah, mon Dieu, je peux pas croire que je vais faire ça. Tu sais.
Ouais, ouais.
Mais c'est sûr, c'est un gros trip. Le forum, c'est cool que vous l'ayez fait. Là. Quand même, t'as fait les deux. Là, tu sais.
Ouais.
C'est comme classique.
C'est quand même, sur le bucket list, ça, c'est fait. Tu sais. Non, non, c'était vraiment un gros trip parce que le forum, moi, j'avais été là avec mon père voir le Canadien, évidemment, puis voir mes premiers shows rock aussi. Ouais.
Tu t'es inspiré de quoi dans ce temps-là? Comme t'as nommé Elvis, t'as nommé Michael, t'as nommé Eddie Murphy, t'as nommé Richard Pryor, mais comme là, quand tu t'es mis à faire des shows, tout ça, là, c'était tu sais, comme ta vie, c'était quoi? T'habitais où? T'avais-tu des amis proches? Qu'est-ce que t'écoutais? C'était-tu la fête? T'étais-tu discipliné? C'était-tu...
Un peu tout ça, je te dirais, dans le sens que, bon, j'ai habité chez mes parents jusqu'à l'âge de 17 ans. Après ça, je suis parti vivre à la Chine avec un coloc que je connaissais pas. Je suis arrivé là-bas, il y avait deux pitbulls, une moto, un gros intercepteur 1100, il y avait des tatous partout. Là, j'ai fait... C'est un de mes chums m'a dit, hey, on a un de nos chums qui cherche un coloc. Là, je suis arrivé là-bas, j'ai fait, oh, tabarnouche, OK, lui est sérieux. Moi, j'avais une chevette avec des singes peinturés dessus que j'avais fait moi-même, les bumpers en zèbre, puis j'avais mon antenne, c'était un palmier. Et je dis, hey, il va me voir arriver avec mes cheveux bleachés, lui, là, il va pogner de quoi en tabarouette. Je salue le grand Guy qui travaillait chez Humpty Dumpty à l'époque. Et en fin de compte, j'ai été son coloc pendant un an ou deux, je pense. C'est super bien été. Vraiment très cool, jusqu'à temps qu'il me disait, hey, ma blonde, elle revient vivre ici. Fait que j'ai fait, OK, fait que si tu peux t'en aller, moi, ça m'arrangerait. Je suis retourné chez mon père, genre 2 ans après. Salut, père. Ah, il dit, oh, fuck, lui, il venait de rentrer sa blonde, il venait tout s'installer. Fait que je suis retourné vivre chez mon père. Et j'ai pas passé beaucoup de temps, là. Je suis revenu, genre, juste le temps de me remettre sur pied, là, tu sais,
ouais.
3-4 mois. Puis après ça, je suis reparti. J'ai eu des colocs une couple de fois. Mais j'étais pas très fan de coloc. Moi, j'avais hâte d'avoir mes affaires à moi et être tout seul. Là. Mais j'ai eu un coloc qui avait Nicolas, que je salue, qui avait un plan de potes jusqu'au plafond. C'est là que j'ai un peu touché à la chose. Parce que lui, il fumait en se levant le matin. Là, fait que j'ai commencé à essayer ça. Parce qu'au secondaire, je me fumais un joint. J'avais vraiment peur de ça.
Ouais.
Puis, non, c'est plus en faisant de la radio là, avec les dudes là, que je commençais à fumer des. Petit joint en temps. Mais les shows que j'allais voir à l'époque, j'aimais bien les showman quand même, Michael Jackson.
Ouais.
J'avais été le voir. D'ailleurs, j'étais habillé en Michael Jackson quand j'ai été le voir.
Arrête!
Oui! Et j'étais tout seul. Je me sentais un peu... J'étais comme... Je me sentais vraiment loser. Là. J'étais au stade, habillé avec mon gant, avec des brillants, puis mes bas, puis toute la patente. Puis j'étais comme entouré juste de black autour de moi. Ah, oh, quel loser, lui! Je me sentais vraiment ridicule, mais j'ai quand même passé une très bonne soirée.
Et c'était-tu bon, ouais?
C'était pas terrible. C'était pas son meilleur.
Au
mais
stade,
en même
plus,
temps, c'est le seul que j'ai vu. Oui, puis j'avais pas des meilleurs billets, on s'entend, là, que je les avais payés de ma poche.
Très beau stade, là.
Oui, oui. J'étais loin. Et j'ai quand même regardé ça, j'ai trippé. Après ça, j'ai vu d'autres shows qui étaient vraiment... J'avais été voir Peter Gabriel, qui m'avait vraiment... marqué, là. Je me souviens, le show finissait avec une toune Biko, là, qui est une toune sur l'apartheid, si je ne m'abuse, puis tout le monde chantait Biko, 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 puis le show finit, puis le monde continue à chanter, puis là, ça continue à chanter dehors en sortant du forum, puis ça continue à chanter dans le métro, puis ça a chanté jusqu'au métro en Grignon chez nous, là, j'étais là... Wow, j'ai vécu un vrai trip, là.
Ouais.
J'ai compris c'était quoi, là, une énergie... qui transcende tout, là, tu sais, d'un spectacle, là. J'ai fait, OK, ça te suit jusque dans ton lit, chez vous, là. Et j'avais vraiment trippé. Une autre fois, Marc Nadeau, qui travaillait au Kentucky avec moi, qui était vraiment le gars le plus fort de l'école, qui parlait pas beaucoup, un homme de peu de mots. Il avait de la barbe à 14 ans,
ouais.
Tu sais. Puis il était champion haltérophile aux Jeux du Québec. C'était bien, mais très sérieux. Puis moi, je me retrouve à travailler avec lui au Kentucky. Je dis, oh, on pourrait peut-être me le faire comme ami.
Ouais.
Mais en même temps, je voulais pas le déranger. Tu sais, il parlait s'il te parlait. Tu sais, fait que on se parlait pas bien. Puis un jour, il me dit, ouais, il commence à me faire confiance. Fait comme 4 mois, je travaille au Kentucky. Il me voit dans la cuisine à côté de lui sans me parler à tous les jours. Fait qu'il finit par dire, en fin de semaine, il dit, on s'en va voir le show de Styx au forum. Puis il dit, on a un billet. Il y a un gars qui peut plus venir. Tu veux-tu venir? Fait que là, je dis, ben oui. Fait que en sortant de là, je suis super content, moi, mais je ne l'ai pas trop montré, mais
ouais.
Je suis vraiment très, très content qu'il me demande d'aller voir ça. Fait que moi, je dis, il faut que je me refasse un look. Ce qui était une très mauvaise idée. Fait que cette journée-là, c'est là que j'ai été me faire bleacher les cheveux la première fois.
C'était-tu in à ce moment-là?
Pas du tout. J'étais le... Non,
d'où t'as pogné ça? T'es comme fou.
Billy Idol.
Let's go.
Let's go.
J'adore.
Fait que j'arrête devant le château et il y a un look dans la vitrine que j'aime beaucoup, fait que j'achète l'intégrale. C'est un look rockabilly avec trois ceintures, des souliers super pointus, un coat fluo turquoise inspiré de Michael Jackson et de je sais pas quoi. Écoute, ils disent, on s'était donné rendez-vous en avant du forum. J'arrive là-bas, eux autres sont tous habillés pareil, jeans, hoodie, bas de Kodiak, puis une caisse de 24 chaque. Une caisse de 12 chaque. Moi, j'arrive avec un six-pack de Sarasota qui était des couleurs, avec un flamant rose dessus, habillé en turquoise, les cheveux bleachés, des ceintures. Je m'étais fait une ligne de noir en dessous des yeux. Ils m'ont pas parlé de la soirée. Je marchais avec eux autres. « Attendez-moi, les gars! » J'étais toujours à peu près 8 pieds en arrière. Lui, il m'a vu arriver. Là, je faisais honte devant ces deux chums anglo qui me connaissaient pas pantoute.
Oh, man.
Puis, j'ai pas marqué de points ce soir. Astique. À un moment donné, je les ai même perdus. Enfin, je pense que c'était volontaire de leur part.
Là, les gars! Guys!
Puis, fini par les spotter un peu plus tard et courir après eux autres pour finir prendre le métro avec eux autres. Ben, j'avais peur de prendre le métro pour rentrer. J'étais tough, quand même. That kind of dude. Yeah, man.
Le show, t'es-tu bon?
J'ai bien aimé Styx. Je pense qu'on est les seuls au monde qui aiment Styx, mm-hmm. Le Québec. Mm-hmm. Je pense qu'ils citent leur carrière.
Oh, ouais, hein?
Mais, ouais, non, c'est pas tout le monde qui aime Styx, là, comme Rush, puis tout ça. C'était des périodes un peu particulières de la musique, mais Styx, sa voix m'impressionnait beaucoup.
Ah oui.
Puis, ah oui, tu connais ça un peu, Styx?
Oui, un peu. Tu sais, moi, mon père, il me disait Peter Gabriel, Rush, Phil Collins beaucoup, Toto, ouais.
Genesis,
tout ça, yes. Name it, Led Zepp, yes.
Ouais, c'était trippant quand même. Rush, c'est le seul vol de ma vie. J'ai volé une cassette de Rush aux Zellers.
Ah ouais, hein?
Ouais, puis il y avait un grand plastique. Il fallait que tu caches ça quelque part, tu rentrais ça dans les pantalons. J'étais vraiment pas à l'aise. Mais tous mes chums, là, ils piquaient des affaires. Puis là, j'étais... OK. Mais j'ai tellement été stressé. J'ai réussi à la piquer sans me faire pogner, mais j'ai pas aimé ça pantoute. Puis j'ai
t'es pas un rebelle? Jamais...
Non. Non. Pas là-dessus, en tout cas. Pas que c'est pas sur grand-chose.
Non, c'est
finalement.
Ça.
J'ai souvent eu des copains rebelles. Je me suis retrouvé dans des positions délicates, des situations dangereuses. J'aime pas ça.
Dangereuse?
Ouais, avec des guns, avec toutes sortes de...
Non!
Ben oui.
Des guns?
Oh yeah, man.
Ça se raconte-tu?
De la poudre, des guns, des filles toutes nues, toutes sortes d'affaires. Ben oui, toute la période des bars, là, évidemment, j'en ai vu de toutes les sortes, des bagarres, des fusillades d'un bar.
Non!
Ouais.
Oh my God!
Ouais, des fois, je suis arrivé avec Roméo Pérus, on est arrivé à la calèche du sexe à Montréal.
Hey, c'est la...
Ben, je jouais souvent dans des clubs de danseuses, il faut dire. Puis... On est arrivé, puis il nous a dit « Non, non, on virait de bord, il n'y a pas de choix à soir, le doorman s'est fait tirer. » Puis le doorman, on l'aimait bien, ce doorman-là, il était gentil, puis tout ça. Puis il y a un gars qui est revenu avec un 12, puis il l'avait tiré.
Si,
ouais. Ouais. Fait que c'est ce genre d'affaire-là, là.
À 13 ans, 14 ans. Tabarnouche.
Ouais. Les bars de danseuses, ça, c'était capoté, parce qu'au début, ils voulaient pas que je les voie, les filles, tu sais, parce qu'eux autres voulaient pas être dans le trouble non plus, avec un kid dans l'établissement, fait qu'ils me faisaient passer par en arrière. Souvent, ma loge, c'était dans un frigo à bière qui marchait pas, là, genre, j'étais assis sur des caisses de bière, puis j'apprenais mon texte. Puis, mais tranquillement, là, à la fin, je connaissais les filles, là, tu sais, puis à 16 ans, il m'a fait monter sur stage, puis il a tout dansé pour moi, là. Comme 12 filles qui dansaient pour moi. Tu sais, ils font ça des fois.
Oui.
Là,
arrête!
Et puis là, il faisait semblant que je voulais enlever mon pantalon. Crée-moi que tu le tiens, ton pantalon. J'ai jamais tenu une affaire de même de ma vie. Non, il aurait pu me tuer, je pense, que j'aurais pas lâché mon pantalon au jour, là. Hey, t'es tellement impressionné, là, tu sais. Ouais.
Mais beau souvenir. Clair, hey, à 16 ans, 12 danseuses.
Oui, oui, c'est quelque chose. Même à 53, j'y prendrais pas aujourd'hui.
Fait que, est-ce que, après ça, bon, tu fais ton deuxième show, quand est-ce que le jeu est entré là-dedans?
Je tournais quand même des sketchs de temps en temps, j'ai toujours aimé ça. Je peux pas te dire c'est après quel show que les dangereux sont arrivés, mm-hmm. Ça a été ma première expérience professionnelle. En même temps...
Ça te stressait-tu jouer au cinéma la première fois?
Non, j'étais vraiment emballé. Là, je rêvais de ça depuis longtemps.
Ouais.
Je voyais une carrière au cinéma. T'sais. On me disait souvent que j'avais une gueule de cinéma quand j'étais jeune. T'sais. Puis ça, à chaque fois, ça fait plaisir. Là, ouais. Toi, t'as une gueule de cinéma. Oh yeah! Thank you. Mais après ça, bon, faut-il encore apprendre le métier?
Oui.
Et non, j'ai vraiment trippé, même si ça a donné un film de marde, on s'entend. J'ai trippé faire ça parce que premièrement, c'était le fun à faire. On a bien, bien ri pendant qu'on le faisait. C'était vraiment une gang d'acteurs hallucinants en plus. Mais c'est sûr que c'est stressant, mais je voyais pas l'ampleur du danger. Moi, je suis souvent comme ça, j'étais un peu naïf. À chaque fois que je fais, tu sais, quand j'ai remplacé Eric à la télé, je voyais pas l'ampleur de l'affaire, tu sais. J'étais là, pourquoi le monde stresse de même, tu sais, parce que ça, j'ai compris, là, tu sais, mais t'es trop tard.
T'es quand même relax, dans le sens...
Je suis assez, ouais, je suis un peu naïf, en fait. J'ai une petite naïveté d'enfant qui joue en ma faveur des fois, puis contre moi d'autres fois. Fait que...
Mais ultimement, ça doit faire... Est-ce que ça fait en sorte que... tu sais, mettons, toi, t'as du fun à faire Les Dangereux ou t'as eu du fun à faire ton show, que ça marche pas, c'est-tu quelque chose qui t'affecte énormément ou ça t'affecte momentanément, mais avec le temps, tu t'es comme... Ah,
avec le temps, je suis... Ah, mais ouais. Sur le coup, pour l'ego, c'est tough. Ouais. On n'a pas envie d'avoir de la cave. On n'a pas envie que c'est le clair. Monde dise « apparemment que c'est pas bon ». Ça, c'est ça m'est arrivé quelques fois dans ma vie. C'est tout le temps désagréable. Mais je le prends aussi avec un grain de sel. Autant que quand on me dit que je suis vraiment très bon dans quelque chose, je le prends aussi avec un grain de sel. Je surfe souvent au milieu. Moi, je m'amène pas dans les extrêmes. Mm-hmm. Quand on m'annonce une super nouvelle... Je suis pas très expressif. Je vais pas sauter dans les airs puis capoter ma vie comme quelqu'un à Price is Right. Fait que même chose quand j'ai une mauvaise nouvelle, je suis pas surpris. Ouais.
Mais c'est quand même, je veux dire, t'as une christie de belle carrière. Là. Tu sais, ça.
Écoute, pour moi, ben, je suis dedans. Là. C'est sûr que j'ai pas de recul, là, mais.
Tu commences à en avoir sur certaines affaires?
Ouais, mais en même temps, t'as du recul, mais en même temps, t'oublies.
Ouais.
C'est un peu fourrant. T'as pas le temps d'apprécier longtemps, tu l'as oublié. Non, sur les années, je te dirais, il y a des périodes. Je repense, c'est comme une autre vie, la radio, pour moi.
Ouais.
Ça a été quand même 5 ans de ma vie intense, qui était fabuleuse. Là,
qui t'ont formé, qui t'ont parti.
C'est la première fois que je faisais du cash, du vrai cash, puis que je pouvais tranquillement penser m'acheter une maison, puis ouais. d'avoir une job steady, puis de développer des aptitudes pour ça, puis des amitiés, puis rentrer dans un monde. Mais c'est comme ça fait 20-quelques années de ça. C'est à peine si je m'en souviens pratiquement. Ouais. Là,
c'est fou comment on oublie vite.
Ouais, c'est ça.
C'est fou.
Fait qu'imagine les années de bar avant. Là, cette année, ça fait 40 ans que je fais ça. C'est quand même assez fou là, d'y penser comme ça. Puis de me sentir complètement à la même place que vous autres ou avec les mêmes insécurités que vous avez. Puis,
ouais, ça te quitte pas?
Non. Non. C'est un peu chiant parce que tu te dis, bon, ça va s'améliorer avec le temps. J'avais vu Yvon Deschamps à un moment donné dans une coulisse de gala juste pour rire. Puis je voulais aller y parler, mais je voyais qu'il faisait 100 pas, puis il répétait son texte. Puis j'étais là, il est bien stressé. Puis après ça, j'avais animé avec lui un gala à un moment donné.
Ça devait être de quoi quand même?
Ouais, ouais. Je me souviens, je l'avais vu en camisole derrière, il lisait son journal. On partageait la même loge, je voulais pas le déranger. Puis j'étais là. Je suis quand même un mec qui vend des champs en camisole. Hein, le fait qu'ils soient en camisole, ça m'a gros marqué.
Je comprends complètement.
On n'en voit plus beaucoup des hommes en camisole. À part toi pendant l'autre.
À part moi. Là, c'est
mais non, c'est ça. C'était... Donc, l'insécurité, je pense qu'elle fait qu'amplifier avec le temps. Surtout sur...
Quand t'animais avec lui, tu l'avais vu être insécure.
Ouais, puis moi, je le vois que je suis bien plus nerveux qu'avant. Quand j'ai... Si je dois casser un numéro ou un truc... Là, cette année, j'ai été à peu près 3-4 fois au bordel voir des trucs, puis les gars me disaient « Hey, monte sur le stage, viens faire un truc.
Ouais. »
Non.
Ouais, ouais.
Non, non.
C'est parce que les gens ont plus d'attente, fait que c'est...
Ouais, t'as plus à perdre. T'as plus à perdre, même si, bon, tu sais, au bordel, c'est pas filmé, t'es ouais. En principe... mais il y a bien du monde qui arrive super rodé au bordel ouais. Déjà maintenant, tu sais, c'est comme... C'est plus ou moins vrai que c'est du rodage par ouais, moment, ouais, ouais. Là, tu sais.
Ça dépend du monde, ça dépend à qui.
De la bagarre.
Ouais, ça brosse dehors, ouais. Mais on l'entend pas des micros, apparemment.
Okay, parfait.
Mais le plus, c'est que je pense que c'est une... Moi, puis j'ai jamais pas joué ben longtemps, mais le plus long, c'est pendant OD, fait l'équivalent d'un 3 mois, mettons. Puis quand je suis revenu de Bali, la première fois, j'avais pas fait de stand-up. Depuis que je faisais du stand-up, c'est la première ouais. Fois que j'ai arrêté aussi longtemps. Terrifié.
Ouais.
La première fois que je suis monté sur scène au bordel, là, terrifié. J'étais sûr que j'allais plus être capable de faire ça.
les deux, trois premières minutes, je shake.
Ah ouais.
Et à un moment donné, c'est la première fois que je répétais mon texte, mettons, tu sais, je répétais plus tant que ça, mais
ouais.
Le texte, je suis comme, ah, je m'y dis vite, vite. Mais là, j'avais fait mot à mot chez nous avant d'aller au bordel, dans là, je l'avais refait. Puis après trois minutes, à un moment donné, je suis comme, ah non, c'est vrai.
Ben
puis
oui.
On s'entend, en 2017, ça faisait à peine quatre ans que je faisais ça.
Ouais, ouais.
Mais aujourd'hui, c'est différent un peu, mais il y a quelque chose où je pense que dès que t'arrêtes, c'est ça qui est tough. C'est que
faut que tu t'y remettes un moment donné.
Tu t'y remettes.
Comme le bicycle.
C'est comme le gym. C'est quand tu recommences, c'est ouais, c'est tough, tu sais.
Pourquoi j'ai arrêté aussi longtemps? Ou...
Oui.
Ouais.
Mais il suffit que à la seconde où tu vas. Moi, je trouve que tu sais, à chaque fois, le peu de fois où j'étais sur un show, mettons, avec Laurent Paquin, tu sais, ou Louis José, ou Martin Petit, ou Mike, ou puis tu fais ah ben. S'ils sont si bons, c'est parce qu'ils viennent jouer, ils continuent de jouer au bordel. T'sais, moi, j'ai vu Laurent Paquin roder son show des plaires à Saint-Lazare où j'animais. Et, écoute, son rodage n'était pas commencé de son show encore. Il est arrivé 45 minutes où j'ai été impressionné. J'ai fait Christy.
Il a cassé 45 minutes.
Ben, il avait rodé au bordel avant, mais il n'avait pas commencé ses rodages officiels.
Ouais.
Il était prêt là, à un point où j'étais comme, c'est impressionnant. Puis. C'est là où je pense que la seconde où tu fais « Hey, mon prochain show, je vais commencer à l'écrire. » Le plus tough, c'est les premiers shows. Mais si tu fais « Hey, pendant tant de mois, je joue au bordel, les jeudis, vendredis, samedi soir, tout le temps. »
Ouais.
À un moment donné, faut que tu oublies un peu que les gens aient des attentes puis que la seconde où ça devient le fun, voir Stéphane Rousseau au bordel, c'est encore plus trippant que le voir au Forum. T'sais.
Mais j'y ai été il y a six mois, je pense la première fois, ou en tout cas une des premières fois, puis en me disant dans deux semaines, j'y ai joué, puis j'y ai retourné en me disant dans deux semaines, j'y vais.
Ouais.
Puis effectivement, c'est ça aussi. À un moment donné, la peur prend un petit peu trop de place, puis il faut que tu le fasses parce que peut-être... Tu sais, puis souvent, il y a d'autres moments donnés que je vais monter sur le stage... sans me poser une question. Je serais même pas nerveux. Il m'a fait rire le monde pendant pas mal de minutes.
Ouais.
Dans un party ou dans un...
Puis mais après, ça, tu l'as en plus.
Puis après, t'es content. Tu vas t'asseoir et dis « Ah, oh, c'était le fun. J'ai trippé. »
Moi, j'ai commencé à faire des shows improvisés, des shows de crowd work.
OK.
Où je suis monté parce que j'en faisais pas mal dans mon show. J'en faisais beaucoup quand j'animais aussi dans les bars. Puis il y a un de mes chums qui a fait « Man, quand tu fais du crowd work, c'est vraiment le fun. » Faudrait aller au bout de ça. Tu penses que tu serais capable de faire un show de ça? La première fois que je l'ai fait, j'étais super nerveux. Puis au total, j'ai dû en faire peut-être 13 ou 15. Okay. Ah, c'est le fun. Là.
Entièrement improvisé.
Entièrement improvisé.
Wow.
J'embarque avec rien.
Mais tu rembarques-tu avec une petite ligne dans le temps que tu as déjà fait?
À un moment donné, je les utilisais pour roder des numéros, mettons, pour des galas ou whatever. Fait que je finissais souvent avec un numéro que je testais. Mais, mettons, si c'était à refaire, je pense que je ferais juste une série de shows de 100% improvisé. Puis après ça, quand je commence à avoir du matériel, vraiment, je travaille ce matériel-là dans un autre show. Mais quelque chose de fun parce que t'enlèves toutes les attentes. T'embarques, tout le monde sait.
Ouais.
Hey, j'ai rien en ce moment.
Mais ça c'est le fun. Ça, je l'essaierais. Dans le sens que j'aime improviser, puis que le monde soit complice du fait que t'as rien, ben au moins t'as une belle excuse.
Ouais.
Bon, Michel Courtemanche, je n'avais pas joué en sa faveur il y a une couple d'années de ça,
c'était
une autre époque, il s'était mis dans un contexte particulier.
Ben, puis lui, je pense que c'était un gros choix à grand déploiement, mais encore une fois, c'est le genre de truc où tu peux faire ça au terminal ou au bordel, une petite salle de 100 places, les billets, c'est pas ça le stress, il n'y a pas les attentes, tout ça, t'en embarques. Puis ce qui est cool aussi, tu sais, il y en a plusieurs qui le font. Je suis loin d'avoir inventé ça, mais tu sais, Guillaume Pinot, il embarque, puis lui, il a son board, puis il y a des différentes thématiques. Puis, OK, c'est pas écrit, mais OK, on fait telle affaire. Puis là, il part, tu sais, il compte une anecdote. Fait que c'est le genre d'affaire où ça peut devenir. Puis ça fait en sorte que aussi, en plus, le public a comme accès à ta création, puis il y a quelque chose de fun, tu sais. Ça peut un peu calmer le stress, puis après ça, t'amener à faire ah, ben, cette partie de numéro-là, je pourrais le faire en 15 minutes au bordel. Puis, parce qu'en effet, des fois, là, si tu passes après Louis-José qui rode son la veille de la disque, ben oui, ça se peut que c'est arrivé avec une veille.
Moi, à chaque fois que j'y étais, j'avais tout le temps des killers. Là. François Bellefeuille qui était full en forme, Louis Joe. Je t'ai vu aussi, je pense, une fois.
Ça se peut.
Non, t'étais pas là. C'était pas toi. C'était un autre gars qui a une barbe.
Ah, oui, oui. Didier Lambert.
Voilà. On vous mélange tout le temps, tous les deux. Il avait mis des crocs, je pense.
Ah, voilà. Bon, ben, c'est, oui, c'était moi. C'était moi, absolument.
Mais ouais, moi, je t'encourage à le faire. Il faut que tu le fasses parce que même moi, comme... Hey, si j'étais sur le même line-up que toi au bordel, je deviens spectateur là, pendant un instant. Puis c'est putain des attentes. C'est... Ah, c'est cool en Christ, tu sais, d'assister
à ce moment-là. Mais moi, je me suis vu choquer des fois. Mais surtout, ben, choquer. En France, pas choquer, mais être à 50% de mon potentiel. Genre, puis ça, t'aimes pas ça.
Ouais, c'est pas le fun.
C'est pas le fun, ça. Non. Pourtant, même si t'es avec... Mais du stock semi-rodé, mais dans une télé live, là, genre, là, tu fais... Oh, fuck. Et puis, j'étais derrière, puis j'étais tellement angoissé, je me suis dit, fuck, man, je pense que je vais perdre connaissance. T'es vraiment sur le bord de dire, Steph, focus, là, parce que là, tu commences à avoir des picots noirs, puis... Tu sais même plus, t'es même plus capable de dire deux lignes dans ta tête.
Pas d'allure.
Ça t'est déjà arrivé, ça?
Ah oui, ben oui. Être terrifié de même, à un moment donné, il faut juste que tu fasses quelque chose.
Ouais. Ouais, mais... c'est ça. Ça a bien été, mais tout le long, j'étais quand même pas. Tu sais, j'étais spectateur de moi-même. Là, je jouais là, là. Ouais. Tu sais, je me regardais jouer. Puis après, tout le monde, ça a bien été. Pas eu de fun, en l'écart. Pas eu de fun. Ça n'a pas paru.
Mais d'un comedy club, tu sais, pas capté et tout ça, là, c'est cool parce que il faut.
Ouais, tu joues pas ta vie.
Je pense qu'il faut juste apprivoiser ça. T'sais, des fois aussi, le bordel, moi, le premier, quand ça a ouvert, moi, j'ai pas joué pendant quelques mois là, parce que j'étais pas encore assez prêt à l'époque là, quand ça a ouvert. Ouais. Puis la première fois que j'ai joué, mes parents sont venus me voir, puis c'était quelque chose, là, tu sais. Puis au début, moi, j'étais comme, je vais là avec Mick Keller, puis j'ai pas le choix. Puis j'ai eu la chance de, aussi d'évoluer, tu sais, quand le bordel est apparu, puis à aujourd'hui, ça a été rapide, mais moi aussi, tu sais, j'ai évolué rapidement dans les dernières années. Puis tu sais, fait qu'à un moment donné, à cette heure, j'utilise le bordel vraiment pour casser du matériel ou roder du matériel. C'est rare que je casse comme une V1 complète, là.
Ouais, ouais.
Mais, tu sais, l'open mic, là, 5 minutes, là, ce n'est le
ouais,
fun.
Moi, on m'a dit que c'est pas là qu'il faudrait que j'aille essayer l'open mic.
Non. Mais c'est juste que l'open mic, ça dépend des soirs. J'ai pas joué assez souvent. Les fois où ça a le mieux été, c'est les fois où j'avais vraiment, vraiment, vraiment aucune attente. Je venais pour me mettre, moi, des mots dans la bouche, pas nécessairement pour recevoir les réactions. Puis 5 minutes, c'est trop court, là, tu sais.
Ouais.
Mais souvent...
Si ça va bien, t'es là, fuck, j'aurais fait plus. Hein.
Mais c'est parce que... Ce qui est fascinant de l'open mic, c'est que, tu sais, moi, j'ai vu une madame d'une 60aine d'années avancée, tu sais, être en colère, là, sur scène, puis ça, c'est drôle, parce que t'es comme, attends, qu'est-ce que je suis en train de vivre, puis la lumière rouge allume, puis elle est comme, mais encore lisse de ta lumière, j'ai des affaires à dire, moi, puis elle part, puis après, c'est un kid de 18 ans que c'est sa première fois qu'il a une cravate, puis
c'est
propre, puis qui est mal à l'aise. Puis
mais ça, je les ai vus un peu sur YouTube. Là, j'étais là. Fait que l'open mic peut se retrouver sur YouTube.
C'est pas le même. Là, toi, tu parles sûrement de l'émission de télé. L'open mic de AV, qui est une autre affaire. Mais
non,
l'open
non,
mic...
non, pas ça. Non, non, pas l'open mic d'AV. Non, 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 non. Non, non, le bordel. Au bordel. Vraiment, je l'ai vu, cette petite madame-là, fâchée même, je pense.
Non.
Ouais.
Ben non.
J'ai vu plein de monde qui viennent compter des jokes ou qui viennent essayer des trucs.
Ça doit être du monde qui le filme eux-mêmes et qui le poste
eux-mêmes. Moi, c'est ça aussi, t'es là. J'ai pas envie de me retrouver sur YouTube avec une affaire que je m'en vais essayer, tu sais.
Ouais, mais au bordel, moi, j'ai beaucoup confiance au staff, là, tu sais. C'est pas tolérer les téléphones, puis il y a personne qui filme.
Ou
puis...
c'est eux-mêmes qui se sont filmés à console, puis ils ont dit, OK, moi, je le mets parce que j'ai aimé ma performance.
Voilà.
Puis, peut-être, ouais, pour se faire de l'autopromo. C'est possible.
Ça, exact.
Ouais, ça serait logique, ouais.
Ben oui, man, c'est... Ben là, tu penses-tu faire un prochain show? Ou là, en ce moment, là, je te dis ça, tu viens d'exposer.
Je suis vraiment là-dedans, tu sais, ouais. Mais je me posais encore, j'étais dans la douche un matin. Moi, dans la douche, je réfléchis énormément, comme nous tous. Je gaspille beaucoup d'eau chaude pendant ce temps-là, par exemple. Mais puis il y a quelque chose qui me dit, vas-y, Steph, envoie, t'as encore quelque chose à dire. Puis, tu sais, ça fait tellement longtemps que je fais ça qu'à un moment donné, moi, j'aime ça être à bonne place, au bon moment, puis avec être d'actualité, puis pas être en retard dans mon discours ou dans ma façon de faire. Puis ça a tellement bougé les mécanismes de l'humour. Il a fallu déjà que je me réinvente 2-3 fois pendant ma carrière.
C'est fou.
Fait que t'es là, OK, c'est encore un autre step, c'est encore autre chose. Je veux être à bonne place, puis le faire au bon moment. T'sais.
Ouais. Mais t'as connu des époques, tu sais, commencer avec Roméo Pérus, après ça, côtoyer Yvon Deschamps. Après ça, tu sais, la fin des années 90, début 2000, c'est une autre affaire. Puis là, où on est rendu aujourd'hui, c'est fou, là.
Oui, oui. J'ai eu la période de Patrick Huard et Claude Legault et compagnie. Puis Non, c'est drôle parce que moi, quand je vois ces gars-là, ce que j'aime beaucoup de mon métier, en vieillissant, c'est de voir des collègues comme ça que j'ai vu passer à travers le temps, puis qu'on se souvient quand on était au Club Soda, ou on se souvient quand on était en coulisses. Lundi DA. Ouais, ou lundi DA, ou ailleurs, tu sais. Puis de les recroiser, on sait ce qu'on a derrière la cravate, puis ce qu'on a passé, puis ce que l'autre a passé, puis t'as une petite idée de l'ensemble de son œuvre, puis lui de la sienne, tu sais. Et ça, il y a une espèce de respect mutuel, même des fois avec des gars que t'as jamais bandé, c'est pas des gars avec qui t'as chillé tant que ça, ouais, qui faisaient partie d'une autre gang, mais il y a une espèce de respect qui est le fun quand ben oui, même. Dans l'œil, ça se voit tout de suite, tu fais « OK, we've been there, on était là ». Ça, c'est assez trippant, je trouve, cette fratrie-là.
Y a-t-il une époque que tu t'ennuies plus qu'une autre? Sans dire que tu y retournerais, mais de faire hey, « là, on a eu du fun ».
La belle époque de Juste pour rire, j'avoue que c'était assez le fun quand même. Là, quand on se retrouvait avec les artistes de la France qui débarquaient, les parties après, les shows, les cartes blanches que Franck Dubosc et moi, on avait. Mm-hmm. C'était malade. Là, on avait beaucoup de moyens pour faire des fictions. D'ailleurs, on tournait beaucoup de petits films qui sont devenus, pour certains, même assez populaires, là, des petits le western ou des affaires que j'ai ouais, faites avec lui, qui étaient quand même très efficaces, très bien faites. Puis c'était, pour moi, c'était une très, très belle époque de Juste pour rire, pour ma part. Mm-hmm.
Ça t'a quand même amené en plus en France, là, tu sais.
Ouais, ouais. Puis il y a eu toute cette phase, c'est ça, toute cette période-là aussi. Là, ça fait 3 ans que je n'ai pas mis les pieds là-bas, tu sais. Puis ça me fait tout drôle que ça aussi, ça devienne une espèce de bloc du passé, ouais, pratiquement. C'est sûr que j'ai des invitations pour y retourner. Ouais. Puis je me pose la question. Parce que là-bas aussi, ça a beaucoup évolué, beaucoup mm-hmm, bougé ces dernières années. Fait que j'ai-tu envie de me remettre cette pression-là de
ouais,
et de me remettre en compétition avec des kids de 25 ans, là, tu sais, c'est tout le temps un questionnement que tu te poses, puis tu dis...
Ben, c'est que, en plus, je comprends... je comprends qu'on... C'est qu'inconsciemment, puis je te dis ça, puis je me sens quand même en compétition, là,
mais c'est, pas,
c'est
une
pas une compétition, c'est ça l'affaire.
Non, mais c'est une compétition sur l'énergie, un ouais, peu, dans le sens que ouais, je me mets pas en compétition avec toi ou avec d'autres humoristes plus jeunes. Je me mets en compétition avec moi-même face à l'énergie que je pourrais avoir à déployer pour sortir un nouveau spectacle aujourd'hui.
Ouais, ouais.
Tu dis, c'est sûr, quand t'as 25 ans, t'as bien plus envie de lumière que quand t'es 53. Fait que je veux trouver une formule qui serait adéquate pour moi à mon âge, tu sais. Mm-hmm. Moi, faire 6 shows par semaine, puis poster à toi 10 minutes.
Non,
c'est
non,
sûr
non,
que c'est plus tough là, quand t'as 53. Ouais, tu sais, ouais, t'as moins ce besoin-là, mais en même temps, les producteurs ont envie que t'aies cette énergie-là ben, que vous avez.
Je pense que le public a envie, tu sais. Puis en plus, ce qui est cool, c'est que je pense que ce qui est le fun de notre métier, c'est que vieillir, c'est positif. T'as de l'expérience, t'es meilleur, inévitablement, dans le sens où.
Pas nécessairement. Tu peux être moins bon en vieillissant.
Oui,
aussi.
Oui, oui, absolument.
C'est sûr, ça
ouais,
arrive. On a tous vu que tu fais ah!
Oui. Mais ceux qui font leur devoir,
ouais,
ceux qui vont dans les comedy clubs, justement, puis qui passent par-dessus la peur d'être à côté
ouais, ouais,
des Bellefeuille, puis des Filroy, puis des Quatre Levaques, puis des Mariana, ben eux autres, ils traversent le temps, tu sais.
Oui, oui, non, c'est sûr. Mais il faut effectivement c'est se remettre tough, en question tout le temps, puis se revoir, se repenser, puis pas lâcher le morceau, travailler fort, si tu veux y arriver, là, ça, c'est clair.
Mais toi, en plus, parce que tu jongles avec tout, t'es très talentueux.
Merci.
Non, mais c'est vrai.
Ben c'est un peu, je te dirais... Je sais pas si je suis très talentueux, mais je suis très curieux à ben des niveaux, tu sais. Puis c'est un peu embêtant parce que j'aime autant chanter que j'aime faire des jokes, que j'aime jouer, que j'aime faire du drame, que j'aime faire de la comédie, que j'aime peindre.
Ouais.
Fait qu'à un moment donné, t'es comme, tu sais, accroche-toi à quelque chose, mais...
Mais à cette heure, je pense que encore plus aujourd'hui qu'à l'époque, même si tu l'as fait, tu sais, t'as joué avec tout ça... jusqu'à tout récemment, mais aujourd'hui, je pense qu'on peut encore plus être tout ça.
Je pense que oui.
Qu'à l'époque.
Ouais, avant, c'était moins accepté. On avait ouais, tendance à vouloir mettre dans des cases mm-hmm, tout ça. Aujourd'hui, on le voit, il y a des gens qui vraiment se prêtent à plus de je cherche le mot en ce moment. qui se prêtent à tout
ça. Crayon.
Crayon.
C'est ça le mot que tu cherches.
C'est ce mot que je cherchais. Bravo.
Plus de gens qui se prêtent à plusieurs crayons.
Oui, c'est ça. Porte plusieurs casquettes.
quand t'as fait les invasions barbares, ça, est-ce que tu savais que t'embarquais dans quelque chose de qui allait te porter, sans savoir que ça allait te porter si loin, mais d'un peu plus grand que nature ou...
Ouais, ça, c'est genre un peu accident de parcours, dans le sens que...
Un bel accident, quand même.
Ouais, ouais, vraiment un bel accident. Là. Ça, c'est le genre d'accident que tu peux avoir tous les jours.
Un accident où mais... tu rentres ta néon d'un char, puis qui, finalement, ouais. Tu tombes d'une Porsche, puis c'est comme elle là-bas.
Il n'y a pas de blessé, puis la fille t'embrasse, puis tu finis ensemble. T'sais. Ouais, c'était à peu près ça. J'avais passé des auditions pour ça deux fois plutôt qu'une.
T'étais-tu nerveux?
Oui, quand même, mais oui et non. Des fois, les auditions, c'est drôle. Bon, des fois, tu t'en fiches un peu parce que tu dis, je l'aurai sûrement pas, mais je vais y aller juste pour le trip. Fait que,
puis ça t'aide à l'avoir.
Ça t'aide à l'avoir, finalement. Donc, c'est peut-être ce qui s'est passé cette fois-là. Et quand j'ai eu l'appel que j'avais, j'étais vraiment très, très, très content. Je savais que c'était puissant, mais comme scénario, évidemment, mais je pensais pas. Je voyais pas toute l'ampleur de Denis Arcand et de son cinéma et des répercussions que ça aurait à court terme sur ma carrière puis sur ma vie. Parce que franchement, là, il y a des moments... ça reste le highlight pour moi, l'espèce de standing de 20 minutes à Cannes, au palais, au Grand Palais. Là, il y a des acteurs immenses qui vivront jamais ça de leur vie là, parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité, la chance de se retrouver dans
le bon film au bon moment avec le bon réal.
Exactement, tu sais. Puis toi, tu es là, tu sors de Madame Jigger puis des Dangereux, puis tu es là, puis les gens, ils crient au génie là, parce que tu gobes toute cette affaire-là puis tu t'en prends une belle partie pour toi. Là, ouais. J'ai vécu des témoignages hallucinants. Par des journalistes, par des gens de la rue, de différents pays. J'ai été faire les premières en Espagne, des petites madames en Italie qui me serraient dans leurs bras. Puis ils parlent en italien, puis leur fils traduit. Si le film l'a tellement marqué parce que. Puis là, elle porte ma mère, c'est à moi qu'à. Ouais, c'est ça. Puis c'est quand même. J'aurais pas vivre ça avec mon humour. Là. C'est un film comme ça qui t'amène vraiment des intentions très, très intenses. Et, des intentions intenses. C'est pas sûr, c'est pas ça que je voulais dire, mais en tout cas, excuse-moi, Denis Arcand, si tu m'écoutes en ce moment. Mais non, mais tu sais, des émotions très intenses et qui les gens se sentent interpellés, puis le rôle du fils pour ben des hommes qui sont venus voir des hommes d'affaires qui ont accompagné leur père mourant, ou des fois des témoignages de folie, là, parce que les gens, ils captent ça comme un peu comme la réalité.
Ouais, ouais, ouais. C'est quand même, c'est vraiment comme c'est le fun, c'est peut-être pas un mot assez grand, mais c'est quelle expérience, le fun,
à
vivre quand même.
Oui, puis tu joues dans un... Évidemment, Denis a fait énormément de grands films, mais celui-là est particulièrement réussi. Il y en a beaucoup d'acteurs québécois qui sont venus voir. Mon tabarouette, t'en as pogné un solide. Là,
c'est cool, hein, Chris. C'est vraiment...
Non, c'était vraiment...
Est-ce que tu veux continuer à jouer?
Oui, quand oui, ça c'est sûr que j'aime ça, moi, être en contact avec un autre, puis parler avec, puis jouer la comédie. Moi, j'ai pas de problème, sincèrement, à me transposer dans un personnage. Je suis même assez naïf pour y croire pendant le temps que je le joue, pas pour ramener ça chez nous.
Ouais.
Je suis pas acteur studio star, mais vivre une émotion qui peut faire semblant qu'elle est vraie puis de la vivre pratiquement pour de vrai. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Mon imagination peut partir assez loin pour ça quand c'est bien écrit, quand c'est bien foutu. Puis j'aime ça. Je trippe. Puis c'est toujours impressionnant aussi de jouer avec des acteurs chevronnés, puis d'avoir leur regard, leur énergie, puis leur drive. Là, que tu prends ça dans les couilles. Là, t'es comme, oh, t'as pas le choix d'être vrai.
Des acteurs qui t'ont intimidé?
Beaucoup, quand même.
Pas intimidé dans le sens d'intimidation, là, mais dans le sens en jouant avec eux.
Je me sens tendu. Un peu des deux.
Les gens qui m'ont intimidé. Ouais, Claude Legault, et l'autre fois, il m'a pris mon lunch. Puis,
traité d'imposteur. Puis. Mais Rémi Girard, forcément, là, quand tu joues son fils, t'as des scènes très poignantes avec lui. Puis, t'as envie, des fois, j'avais envie de proposer quelque chose dans certaines scènes, dans le jeu. Puis là, t'es là. OK. Puis là, tu vois qu'il surfe avec toi, il s'en va. OK, tu veux m'amener là, parfait, on va y aller. Puis des fois, c'est ça qui est le fun aussi, dans cet échange-là qui est bien trippant. Guinadon, bon, c'était dans les dangereux, mais quand même, de te retrouver face à Guinadon.
Il est solide, Guinadon.
C'est épeurant un peu, là, tu sais. Fait que je devais avoir peur, ça donnait très, très bien. t'espères tout le temps dans ce temps-là que ta nervosité va te servir. Dans le sens, si c'est toi, il faut qu'il l'impressionne. C'est pas mal plus tough la jouer que si tu dois être impressionné par Guinadon.
Moi, j'avais auditionné pour... c'était De Père en flic 2.
Mm-hmm.
Et j'arrive, moi, j'avais une ligne pour l'audition. C'était une ligne. J'étais comme, pourquoi que j'ai une ligne? C'était même pas une longue ligne.
Ah
c'était
ouais,
une ligne.
Petite ligne.
Super dur. J'arrive, puis en arrivant, ils font, « Hey, John, aimerais ça que tu auditionnes aussi pour une autre affaire. » Là, je te passe en 2016. Là,
ah oui.
Ils m'offrent l'affaire. Et dans l'autre affaire, c'était la scène où je jouais la personne qui se faisait passer en interview par Michel Côté quand il fait peur puis il est fin. Et là, j'apprends ça vite, vite. Et je me souviens être là. Et l'acteur qui me donne la réplique me fait peur pour vrai.
Ouais, ouais.
Puis je suis rendu spectateur dans ma tête. Je suis comme, il est vraiment bon.
Ouais, ouais, c'est ça.
Puis j'étais plus doux en train de jouer. Puis je suis comme, vous devriez prendre lui. Il est vraiment
il est bon. Il est mort.
Mais en plus, ce qui serait cool de jouer aujourd'hui, c'est que tu serais plus le jeune premier, tu serais plus le fils.
Non, c'est ça.
Un rôle différent.
Non, parce que pendant longtemps, on m'offrait souvent le même type de rôle. Quand on t'a vu jouer après les invasions, un gars en cravate qui réussit. Et là, tout le monde me proposait des gars en cravate qui réussissaient. À un moment donné, vous n'avez pas d'autres propositions, là? J'avais pas envie de me salir un peu, me faire. Parce que quand tu as joué quelque chose, tu n'as pas envie nécessairement de le rejouer, à part peut-être dans la suite du même film. Ouais. Mais sinon, en même temps, il y a des gars qui tiennent un rôle toute leur vie dans différents films. Là. Ils jouent à peu près tout le temps le même rôle, puis ça marche. Moi, je suis pas comme ça.
Mais t'aimes essayer des affaires.
Comme quand je fais un dessin, j'ai pas envie de refaire le même dessin. Il y en a des artistes qui vont refaire tout le temps la même affaire. Moi, j'ai bien de misère, même là, pour tenir une série pour un expo, il fallait que je me concentre, là, de dire, OK, parce que j'en ai proposé 24, j'en ai fait 60.
Merci, ouais.
Ouais. Puis j'en avais comme 40 qui n'a pas rapport. C'était là. Celle-là, c'est peut-être pas de la même série, Stéphane. Des fois, tu rentrais à mon atelier, t'es dit, ça, c'est qui cet artiste-là? Non, ça, c'est moi aussi. Fait que. Puis j'en suis conscient quand même, mais des fois, je peux partir sur un autre délai complètement.
Comme une grande curiosité, imagination, créativité, qui est comme un peu sans limite.
Fait que j'aime ça peindre en m'appliquant à mort, puis passer des heures sur des petits détails. Comme j'aime ça peindre avec mes mains aussi, puis faire ça en 20 minutes, là, tu sais, fait que ça donne un résultat complètement différent. Mais je pense qu'on peut tout être ça, là. C'est juste, faut que tu choisisses. Quand tu fais une série pour que les gens soient conscients que. Et souvent dans mes shows, je trouve que, bon, j'étais très éclaté, fait que. L'amateur d'humour, il trouve peut-être pas de son compte comme il trouverait dans un show strictement d'humour. L'amateur de tunes, évidemment, il trouve pas son compte parce que tu fais bien des blagues, par contre, entre les tunes. Puis, puis à un moment donné, t'es là, c'est mieux de un peu séparer ça, cloisonner ça. Puis, c'est dur de trouver l'équilibre juste quand tu veux faire un peu de tout.
Ouais.
Pour que ça fasse pas un peu n'importe quoi.
Mais je pense que c'est moins pire aujourd'hui que ça l'était à l'époque, encore une fois.
Ouais, mais en même temps, vous êtes pratiquement tous dans le stand-up en ce moment, en humour. Il n'y a personne qui fait des personnages ou des...
Justement, tu sais, moi, dans ma tête, il y a quelque chose de... C'est peut-être aussi... C'était,
à part peut-être Rosalie Vaillancourt qui est un peu plus dans
son dernier show. Il y en a plein, tu sais. Moi, mon ami David Bocage, il n'est pas connu.
J'adore David Bocage.
Tu sais, il est pété, là. Il commence à travailler sur son show. J'ai tellement hâte de le voir parce que, justement, c'est un gars que quand tu vas le voir en show, ben, hop, à un moment donné, il y a un sketch. Ah, il fait des personnages, mais derrière son pied de micro, puis... c'est pas des personnages typiques qu'on connaît. Il fait juste faire ouais, le gars que tu croises quand tu vas à telle affaire. Puis tel fait. Il y a aucune contrainte.
Ouais, ouais. Mais pardon, je vais pas t'interrompre.
Mais c'est ça, mais ça reste de l'humour.
Ouais.
Mais il en demeure pas moins que, tu sais, Rosalie, tu sais, elle chante dans son show. Je suis pas mal sûr, je l'ai pas vu. Mais tu sais, il y en a plein, là, qui font, tu sais, des tunes comiques, puis des affaires. Puis...
Ben, je pense que ça revient. Tu sais, c'est tout le temps des. L'espèce de vague, hein. À un moment donné, tout le monde se met à faire du stand-up.
C'est ça.
À un moment donné, bon, il y a eu assez de stand-up, on revient à variété un peu.
Ben, puis je pense aussi que moi, il y a des artistes que j'ai vus en show qui m'ont fait comprendre que c'est un show, c'est du temps. C'est que les gens te donnent une heure et demie.
Qu'est-ce que t'en fais?
Fais-en ce que tu veux.
Ouais.
Puis moi, il y a un peu de ça. tu vas voir le Cirque du Soleil, là, pis t'es comme, attends, je sais plus par où ça... Ça vient me chercher de plein d'affaires, puis c'est, je ris, je suis touché, je suis diverti, je suis impressionné. C'est tellement complet. Puis je pense que des fois, en humour, on va... Puis moi, mettons, j'aime la simplicité. Fait que j'aime... Mon premier show, c'était ça. Moi, j'étais comme, hey, je veux juste travailler à être drôle. Fait que je vais embarquer sur scène, puis je vais avoir des jokes, puis c'est tout, tu sais. Mais il y a quelque chose... Tu sais, quelqu'un de multitalentueux ou quelqu'un qui est intéressé par plein d'affaires, je trouve ça cool aussi de... Après ça, peut-être que oui, c'est le fun que ton art soit dans une galerie d'art. Il y a quelque chose de comme... On dirait qu'il y a comme un stamp de... C'est là que ça va, puis c'est le fun. Mais après ça, il n'y a rien qui t'empêche. Moi, quand j'allais voir ton show, je me souviens, c'était pas un peu princesse, c'était l'autre d'avant, si je ne me trompe pas.
Les confessions.
Puis, ouais, c'est ça. Puis, tu avais des dessins que tu faisais live, tu sais. Puis, je me souviens, j'ai jamais vu ça.
Ouais, ça, j'aimais ça parce que. Mais ça ne mettait pas mon dessin en valeur. C'était plus le dessin au service de l'humour, là, à ce moment-là. Un matin, j'ai été voir mon fils qui donnait un spectacle de flûte. C'est toujours bien, bien exaltant, tout ça. Puis. Il y a beaucoup d'écho dans un gymnase, disons. Fait que là, t'as toutes ces flûtes-là. Ça flûte de partout. C'était assez impressionnant. Fait que félicitations déjà à Axel pour sa performance. Mais sinon, j'ai remarqué que tu parlais de cirque et je regardais qu'il y avait beaucoup de gens, je pense, qui comment ils étaient habillés. Je pense qu'ils rêvent de faire du cirque.
Oui.
Parce que c'est une mode en soi, hein, ça, quand même, le look cirque.
Oui?
Non?
C'est quoi le look cirque?
Mais c'est un peu... J'ai de la misère à décrire parce que ça s'entrechoque dans ma tête, ces images-là. Je sais même pas pourquoi je suis parti là-dessus. Non, c'est parce qu'à matin, il y avait bien du monde habillé un peu cirque, mais qui était pas parti, faisait pas partie du spectacle. Non, il était dans le crowd. Mais non, c'est des espèces de bonnets qui se peuvent pas, là. T'sais, des tucs faits à Val-David, probablement, là, t'sais, mais ça me faisait rire. C'est tout. Je sais même pas pourquoi j'en ai parlé.
Mais c'est ça qui est le fun d'un podcast.
Oui, exactement.
C'est qu'on peut parler de ce qu'on veut.
Ouais.
Ça aussi, c'est une nouvelle affaire. Que...
Parce qu'il n'y a personne qui écoute.
Non, en effet. Mais on n'est pas. Tu sais, il y a du monde qui écoute, puis c'est ça qui est le fun. T'sais.
Ben oui, je sais qu'il y a du monde
c'est,
qui écoute.
On ne sait pas c'est qui.
J'en écoute beaucoup des podcasts.
Mais sont gentils de le faire.
Oui.
Mais tu sais, mettons, à sur-invitation seulement, c'était ta tasse de thé en ciboire. C'est comme, on fait des jeux, c'est un party, il y a un peu d'alcool.
J'aimais ça, mais moi, je suis pas un gars de jeu. Je déteste les jeux. Fait que ça, c'était la partie qui m'énervait un peu. Moi, quand on veut jouer un jeu dans un party, je suis plus là. Je suis plus là.
Toi, t'aimes jaser? C'est quoi t'aimes faire?
Un party, j'aime ça rire, déconner, avoir du fun, faire le party. Je danse pas vraiment. Je suis plus à chiller, puis à raconter des niaiseries, puis à rire des niaiseries de mes chums.
Mais tu vois, tu viens d'écrire un podcast. On est sérieux un peu, mais c'est sensiblement ça.
Ouais, ouais.
C'est chiller, jaser. Puis...
C'est pas mal ça que je préfère. Là, jouer à des jeux, même des jeux de société, je suis pas très... Déjà, je comprends jamais rien. Moi, les règles, écoute, mon gars, on finit toujours par donner un jeu de société à Noël, à son fils ou à sa fille. Puis là, faut que tu lises les instructions. Puis là, écoute, je comprends rien. J'aimerais ça. Je finis toujours par inventer des règles parce que là, ça finit plus. Il y en a qui lisent ça vraiment du début à la fin puis qui s'acharnent à tout comprendre.
Je suis pas cette personne.
Moi non plus.
C'est même plus fun de jouer avec des règles inventées.
C'est plus vite, en tout cas. Tu finis ça quand tu veux, puis c'est moins compliqué.
La première fois que tu as rencontré Yvon Deschamps?
La première fois que j'ai rencontré Yvon Deschamps, écoute, c'est une bonne question. Par contre, ça m'amène... je sais pas, faut que je vais y réfléchir. Ça m'amène la première fois. Il y a un truc que j'ai fait dans ma vie qui était quand même assez sauté. J'avais été voir un show de Ding et Dong avec Claude Meunier, Serge Thériault à la Place des Arts. Et j'étais tellement fan que je m'étais habillé en Dong. Puis j'étais avec un de mes chums qui s'appelle Burger. Mario Bergevin, son vrai nom. Puis
J'aime ça comment. Ça fait deux fois que tu vas voir un show déguisé.
Ouais, effectivement. Je me déguisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi.
Michael Jackson.
Ouais.
Et Ding et Dong, quand même.
Quand même.
Je trouve ça cool.
Ouais. Habillé en Dong. Et quand je suis rentré. Le monde pensait que c'était Dong qui rentrait dans pour aller à son... Fait, il y a bien du monde. J'avais une perruque, les lunettes, le coat. Ça se pouvait, là, t'sais. Fait que le monde, il applaudissait quand je passais. Tout le monde me regardait. Il pensait vraiment qu'il commençait le show de la salle. Puis, à un moment donné, ils ont compris que c'était juste un fan qui était habillé en Dong. Fait que le show a lieu. Gigantesque, fabuleux, drôle à mort. Je capotais ma vie. Puis, j'étais assis loin, loin derrière à la Place des Arts. J'ai pas des bons billets, j'ai pas d'argent. Puis, le show se termine. Et là, je dis à mon chum Burger, je dis, faut que j'aille les saluer. C'est sûr, je peux pas partir d'ici sans saluer Claude Meunier. Fait que, show fini. On attend que la salle se vide, même qu'on se penche pour être sûr que la salle soit bien vidée puis qu'on puisse avoir accès. À un moment donné, au gars, puis qu'il dit, ouais, écoute, il reste juste nous autres. Ouais. On attend, mais on attend un peu trop longtemps. Fait que le gars est parti. Fait que là, on voit, il commence à fermer les lumières de la place des arts. Fait que là, on descend, nous autres, OK, on va y aller. Puis là, on s'en va, puis là, on voit personne.
Vous rentrez dans les loges.
Fait que là, on rentre derrière, on arrive. Puis là, on passe un monsieur qui dit rien, genre un concierge qui passe à côté de nous autres. Bon spectacle, dans le sens qu'il pense vraiment que c'est Claude. Puis là, j'arrive devant la loge, puis je cogne à la porte. Rien. Fait que là, je dis, fuck, on les a manqués. On a attendu bien trop longtemps. Tout le monde est parti. Puis là, on a peur d'être enfermé dans le théâtre. Mais là, je dis, attends, on va essayer la poignée. J'essaie la poignée est ouverte. La porte est débarrée. Fait que je rentre dans la loge de ding et dong. On allume les lumières. Puis là, il y a tous les costumes. Non. Là, je me mets à capoter. Je vois un paquet de cigarettes à Serge Thériault. J'écris une note. On n'a rien volé. On aurait aimé vous rencontrer. Merci beaucoup. C'était excellent, papa. Puis on a sacré notre camp. Et c'est drôle parce que Claude Meunier m'a envoyé un texto un matin. Puis, tu sais, t'es là, la vie, comment c'est fait.
T'as-tu déjà compté?
Ben oui, j'ai compté. Il capotait. Il se souvenait plus. Mais effectivement, on est rentré. Puis je me suis dit, je touchais à son côte de vache. Là, je capotais.
Mais c'est clair.
Ouais.
Est-ce que à ce moment-là, quand.
J'ai tellement envie de pisser.
Ah, vas-y, mon gars, vas-y.
Ben non.
Ben oui, certainement. Ben non. On s'en fout, on est sur YouTube.
Ah ouais?
Ben oui, certain.
Fait que tu peux arrêter, puis.
Ben oui, je vais jaser de toi dans ton dos avec Nicole. Okay. Puis tu vas à gauche, à gauche.
Je sais même pas si ma carte me lever, tellement j'ai envie. Comme 20 minutes, je me
À gauche, à gauche. Fascinant quand même. Nicole, c'est ta première présence sur le J du Temps Discute.
Yes.
Bienvenue, Nicole, qui a le nom de ma mère, mais qui est un jeune homme, yes, technicien. C'est quand même cool en esti d'avoir Stéphane Rousseau.
Il y a tellement des bonnes histoires. Il y a plein de bouts qui sont sujets à faire des extraits là-dedans, je trouve.
Oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai.
Il y a vraiment des méchantes bonnes histoires là, qu'il raconte. Là.
Mais le pire, c'est que tu sais... Stéphane Rousseau, c'est le genre d'invité où tu fais, on le voit rarement. Il a fait sous-écoute parce que tous les humoristes ou presque finissent par faire. Ils vont des champs, fait sous-écoute. Ouais, là, ouais. Mais c'est pas un gars qui fait beaucoup de podcasts.
Ouais.
Mais t'es comme, c'est un invité en or de podcast. Là,
ouais, c'est ça.
Il a comme 8 vies.
Ouais.
Vraiment fascinant. Ouais. T'as-tu déjà vu en show?
Non, je l'ai jamais vu en show, lui.
Moi, je le trouve drôle. Je me souviens, je sais pas si on peut parler, j'en parlerai pas, mais. Parce que ça inclut Éric Salvaille, mais les recettes pompettes qu'il avait faites avec Éric Salvaille.
Ah, il l'avait fait?
Je pense l'épisode le plus drôle que j'ai trouvé. Il était malade. Il était malade. Il avait pitché des affaires. Hey, c'était drôle, là. Il est drôle pas un peu, ce gars-là.
Ouais. Ben, il se déguise souvent aussi. Il joue. C'est ça, c'est un acteur aussi, ce gars-là. T'sais, il fait toutes sortes de trucs là, dans ses sketchs aussi. Là. C'est ça qui est cool, là.
T'as-tu remarqué son coton-watté, c'est lui qui l'a fait, je pense. C'est son art, c'est son merch.
Ah ouais, non.
Pas mal ça, tu remarqueras, je pense. Parce que t'es Christophe, ça la mange. Puis,
Fait qu'il fait du linge en plus, lui.
Ben, je sais pas, je vais lui demander. C'est sûrement à cause de son expo.
OK.
Parce que je pense que c'est ses dessins dans le dos, puis ça la mange.
OK.
Mais... Tu sais ce qu'il vient de dire avec Claude Meunier qui l'a texté un matin. Moi, une couple de fois pendant le podcast, je suis un peu sorti de ma tête faire. Je suis en train de jaser avec Stéphane Rousseau, moi.
Ouais, c'est ça.
Tu sais, comme. Je me souviens pas connaître.
C'est un grand, là. C'est un grand de l'humour, Christ. Quand même, là, au Québec.
Mais,
là.
Hein.
Puis il est même connu pas mal en France aussi.
Oui, pas un peu, là.
Puis, en fait, je pense, dans les humoristes québécois, en fait, qui sont allés en France.
Anthony Cavanagh, puis lui, je pense que c'est
un qu'il réussi. Est pas mal au top, en tout cas.
Ouais, absolument.
Puis il y a peut-être Rachid aussi.
Ouais, Rachid. Faudrait que je l'invite. Il est venu au Sans-Filtre.
Ouais, il est venu au Sans-Filtre.
Il podcast à PH, puis Dom. T'étais-tu là?
Ouais, j'étais là. Je l'ai trouvé au métro, en fait.
Ah ouais?
Ouais, je suis sorti du métro. Il était perdu. Genre, il regardait son cellulaire. Il savait pas où aller. Fait que j'étais allé le voir. J'ai dit, hey, je pense qu'on s'en va à la même place.
Tu me niaises, c'est bien drôle.
Puis, ouais, c'est ça. Fait qu'on a marché ensemble un peu. Là. Super smart, là, le gars, là, pour vrai. Là.
Ouais, il est vraiment gentil.
En tant que technicien, je peux affirmer qu'il est vraiment rendu correct avec les techniciens.
Steve, on parlait pas de toi, on parlait de Rachid.
C'est pas clair, est-ce que c'est comme...
Non, c'est pas clair. C'est un ancien... Il y a un de mes amis qui est venu sur le podcast, qui est un gars de musique, puis il m'a raconté que c'était un ancien studio de musique. Les bébés ont enregistré des albums ici, puis tout, ouais. Ton coton watté, c'est toi qui l'as fait? C'est-tu tes dessins?
En bas, là, le parking, tu sais, t'as le doigt à une heure en avant. Là, je suis bien stiff.
C'est vrai carré.
En fil. T'as tout le parqué en fil.
Ouais.
C'est un en arrière de l'autre, ça?
Je pense que oui.
On se parque tout le temps de même. Pourquoi je n'écris pas ça en fil partout?
Hey! Mais non, t'avais pas mis ça.
T'avais pas mis ça.
C'est la première fois que tu viens sur un podcast autre que sans, sous-écoute?
J'ai même pas fait sous-écoute. T'as Mike, pas fait sous-écoute. Il va me tirer.
Tu me niaises.
Ça fait 100 fois qu'il me le demande. Tu me niaises. Toi, tu me le demandes une fois, je dis oui. Man, Mike, I gotta go, I know. Mais ça, c'est parce qu'il a pas passé par les voies...
voilà, ben oui, c'est ça.
Tout a passé par l'attaché de presse.
C'est ma soeur qui a écrit à la personne.
C'est ça.
On ira ensemble si jamais tu cherches quelqu'un et tu sais pas qui y aller. T'as sinon, tu vas y aller avec Claude. Claude Meunier.
Claude Meunier, ben oui, pourquoi pas.
C'est quand même...
Je l'ai croisé à South Beach, d'ailleurs. On a été prendre une bière ensemble. On a bien ri. On fait juste... C'est bien dur. Et Claude, c'est tout le temps drôle parce qu'on se parle en dong tout le temps.
Fais le dong, ouais.
Je peux pas faire autrement que de parler en dong, tu sais, quand j'étais avec lui. Alors, c'est pas pourquoi, mais c'est comme ça qu'on se parle, tu sais. C'est très, très embêtant, tu sais. Les premiers 10 minutes, on se parle tout le temps de même.
Oui?
Ah oui.
Puis il aime ça?
Il aime ça, il rit... Oui.
C'est tellement... Tu fais pour père aussi, j'imagine?
Ouais, mais là, j'ai mélange des fois. T'sais, là, c'était plus pour père que Dong. Dong, il y avait bien comme ça. C'est
un Dong, peu plus aigu.
Dong, il y avait plus aigu. Mais là, j'ai fait trop long. Papa est un petit peu plus fâché, tu sais.
Qu'est-ce qu'il fait de ce temps-là, Claude Meunier?
Claude, il voyage beaucoup. Il y a des projets. Il écrit, qui me dit. Fait que je sais pas,
Les autres, c'était bon, mais pas un peu, là.
C'était un méchant hit. Là. C'était... Man, ils ont fait presque 4 millions de codes d'écoute.
Ils l'ont fait?
Ils l'ont fait.
C'est 4. Eux qui ont le record.
C'est 4, hein?
Oui.
C'est débile,
c'est 4 millions. C'est cœur.
Ma blonde m'écrit.
Ah ouais, ça arrête plus.
Comment s'est passé ton podcast avec Jay?
Ben voyons. Dis que ça se passe bien. Ben, j'espère. Ben, oui, c'est de la mort.
Très bien. Ça va très, très bien. Et, qu'as-tu décidé pour ce soir? C'est ce qu'elle me demande. Je veux savoir si je dors à la maison, parce que ça s'ennuie. Ça s'ennuie, forcément.
Mais oui. On s'ennuie, toi, Stéphane.
Ah, même moi, quand je dors pas avec moi, je m'ennuie.
Qu'est-ce qui... c'est quoi la suite? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi?
Là, sincèrement...
Ah, attends, on a-tu répondu la première fois que tu as rencontré Yvon Deschamps?
Ah! Yvon, écoute, j'ai...
Mais toi, c'est quelqu'un que t'admirais, tu sais, avec Digging Dong. Puis Yvon.
Bon, ben oui, Yvon, je l'admirais au bout. Mais la première fois, je me souviens plus c'est quand, mais c'était juste pour rire, c'est sûr, d'un coulisse. Mais ça a pris du temps avant que ça clique. Ça n'a jamais cliqué, là, c'est pas mon body-body.
Mais quand même, aujourd'hui, vous avez animé ensemble.
Hein? Ouais, ouais, on a animé ensemble.
Ça va être fou.
J'ai joué un de ces monologues, moi, en France. Et c'était fou, puis c'était déstabilisant parce que je pense que le monologue faisait 40 ans qu'il avait écrit. Puis je jouais, moi, tous les soirs. Puis les gens, souvent, venaient me voir après mon show, puis ils me parlaient de mon show, puis ils me disaient « Votre monologue sur la paternité. »
Oui.
Là, j'étais là. Attendez, c'est pas le mien, là, celui d'Yvon Deschamps, tu sais. Puis... Fait que... Mais c'était drôle parce que le monde, il se rendait pas compte que ça avait été écrit il y a 40 ans. Là,
c'est malade,
ça marchait au bout. En tout cas, fait qu'Yvon, il me donnait la permission. Il est venu me voir en France. Mais la première fois que je l'ai vu, je pense que c'était des coulisses de Juste pour rire. Mais je prenais pas trop de place, tu sais, je l'écoutais, le monsieur, puis on avait été souper 2-3 fois avec Gilbert Rozon, puis des grosses tablées, là, tu sais, genre
ah ouais.
25 personnes à table, là, fait que t'es là, fait que t'écoutes, puis tu prends pas la parole trop. Puis je me souviens, une fois, j'avais fini par prendre la parole, puis j'avais dit une connerie, parce qu'Yvon avait parlé, puis là, cette fois-là, j'étais plus près de lui, fait que j'ai dit... Puis t'essaies de te la jouer cool, mais t'es tellement stressé un peu en dedans. Puis tu dis, faut que je dise quelque chose d'intelligent à un moment donné. Puis il y a plein de monde, des vieux de la vieille qui étaient là. Puis là, je dis, Yvon, d'ailleurs, vous avez déjà raconté que vous aviez joué de la batterie pour Édith Piaf à Montréal. Pas en tout. J'ai jamais joué de la batterie. Hein. Fait que c'était pas lui, c'était Claude Léveillé. J'étais complètement dans la chaîne.
Ah, mais c'est tough. Moi, à un moment donné, j'imitais bien Kevin Parra. Je le fais encore dans mon show, mais ça fait trop longtemps que j'y ai parlé. Faudrait que je retourne écouter. Là, je suis, c'est une parodie de Kevin Parent.
Ouais, moi aussi, il s'est rendu ça, là. Je me perds un
peu. Tu l'as quand même bien.
J'avais imité Yvon à son... C'est moi qui avais animé son hommage à Juste pour rire.
Ouais, mais c'est quand même quelque chose d'animer l'hommage d'une idole, là.
Puis j'étais content de mon texte, là. Je l'ai chié d'un coup. Puis, tu sais, des fois, là, tu t'obstines, un texte, c'est dur à écrire. Puis d'autres fois, on dirait que tout coule.
Ouais.
Tu sais pas... Puis ça avait été vraiment, là, il était debout, puis il applaudissait, puis Judy, elle pleurait, puis parce que c'était touchant, parce que je racontais comment j'aimais Yvon, mais quand même, une fois, il m'avait un peu cassé à la télé, devant tout le Québec.
Ah ouais?
Ouais. Mais c'était une blague, mais tu sais, derrière chaque blague.
Ouais.
il animait un gala de la disque, je pense, ou les Gémeaux. Puis on était en nomination, Daniel Lemire, Jean-Marc Parent, moi, Patrick Huard, je sais pas trop.
Ça devait être la disque. Il a animé la disque longtemps.
Moi, c'est ça, c'est la disque. Et, fait qu'il annonce le gagnant, puis le gagnant est Daniel Lemire. Puis là, quand il donne le prix, il dit, ça donne bien, c'était le seul que j'aime dans la gang. Puis moi, j'étais dans la salle, puis j'avais trouvé ça, c'est comme si ton père te disait qu'il t'aimait pas, là,
ouais,
tu sais.
Ouais.
Puis j'avais joué là-dessus quand j'avais fait son hommage. J'ai raconté... Puis lui, c'était une blague qu'il avait voulu faire, mais en même temps, bon, moi, il m'a pas pointé juste moi.
Non, 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 c'est ça.
Mais quand même, j'étais là. Ça m'a fait mal quand même.
Tu sais,
t'es comme, ah, c'est-tu, il n'y en a rien à côté de nous autres, là, il nous trouve nuls. Puis il aime juste Daniel Lemay parce qu'il est plus intelligent que nous autres. Puis nous autres, on est dans la merde. Fait que j'étais rentré, mais ça m'avait fucké ma soirée pour de vrai. Là. J'ai été triste toute la soirée. Vraiment. Et c'est ça. Fait que
comment il a reçu ça quand il a dit?
Ça l'a touché, puis il s'en voulait un peu, tu sais. Puis depuis, écoute, il m'a fait un cadeau extraordinaire. Je peux même pas dire c'est quoi, parce que ça pourrait faire des jaloux,
parfait.
Mais il m'a offert quelque chose que j'ai bien compris qu'il m'aimait pas mal bien, finalement. Ouais, mais ça m'avait un peu décrissé ce soir-là.
C'est vraiment... Je trouve ça comme... Autant je sens un grand respect de ta part envers ma génération d'humoristes, mettons, mais j'espère que tu sens que c'est réciproque.
Ah, ben écoute, je suis toujours touché, moi, quand la nouvelle génération m'invite à participer à quelque chose. Tu sais, je vous regarde, puis de loin des fois, mais des fois de près aussi. Puis comme je suis avec mon fils, on regarde le Killing, là, tu sais, puis... je trippe à fond, puis je connais Alec,
oui.
Le réalisateur, puis tout ça, puis là...
Tu joues pas un petit truc dans... non, c'est pas dans deux, tu y avais demandé.
Non, il y a peut-être quelque chose, mais je peux pas en parler tout de suite.
Ouais. Okay.
Mais non, le 2, on a bien hâte qu'il sort, là, parce que...
Il est bon, Alec.
Ouais, ouais.
Il est vraiment
J'ai fait
bon.
Bien des sketchs avec lui pour quand j'avais mon show de télé. Puis ça, on a eu bien du fun.
Ouais.
C'était très simple de travailler avec lui.
Il est vraiment, vraiment talentueux.
Ouais, il a vraiment le sens du comique. Puis
ouais.
Il est agréable. Moi, j'aime ça m'entourer de monde de fun.
Ouais.
Moi, travailler dans la souffrance, là, surtout pas en humour. Là, ça n'a aucun rapport. Puis même dans le drame, là, c'est bien plus le fun quand c'est chill. Là, puis parce que c'est pas parce que tu joues un drame et que c'est triste que tu es obligé de
rester là-dedans.
De rester là-dedans tout le temps, je pense. T'sais.
Ah, ben c'est gentil d'écouter. J'ai hâte de voir la saison 2.
Ouais.
Ça va être bien bon.
J'ai pas écouté OD, par exemple.
Ah, moi non
mais
plus.
Mais je suis seul, probablement.
Non, il y a quelques
personnes. C'était écœurant, quel hit. Mais j'avoue que c'est fou, mais moi, j'ai jamais regardé aucune télé-réalité.
Ouais.
Mais de Star Academy à La Voix, même ça, je pourrais... Même ça, j'ai pas vu ça.
Non!
Non.
Toi qui aimes la chanson?
Je sais, j'ai jamais vu ça. Mais ça, c'est un mythe aussi que j'aime la chanson et la comédie musicale tant que ça. J'aime pas tant que ça. Laurent Paquin, on est parti à New York dernièrement, puis il voulait m'amener voir des comédies musicales, puis j'y étais. J'apprécie le talent que je vois sur scène. J'en ai fait, puis on m'en a proposé beaucoup.
Toi, t'as fait quoi?
J'ai fait Chicago à Paris.
À Paris?
Ouais, avec Laurent Paquin, d'ailleurs.
Ah, c'est hot!
Et dernièrement, on a été voir deux super, les meilleurs shows de Vegas.
Lesquels?
Pas de Vegas, mais de New York. Là, de Broadway. C'est, tu sais, celui des les gars de South Park.
Book
of Mormon.
Ouais.
Et un autre qui s'appelle Hanstown, je sais pas trop, mais c'est vraiment du haut niveau, mais je trippe pas tant que ça.
Ouais.
Je trouve ça long, un entracte, je débarque, je reviens, je trouve ça long, je rembarque, il y a bien des chansons, ça chante beaucoup. Puis ça chante à la Broadway aussi.
Ouais, ouais.
Et j'ai quand même mes petites réticences. Je ne l'ai pas dit à Laurent parce qu'il était tellement content de m'amener, mais j'ai dit que j'avais adoré ça. J'ai aimé ça. J'ai aimé ça, Laurent. Ben, 300 pièces d'étiquette, je trouve.
Ah, ça coûte cher.
Ouais.
J'étais allé voir Book of Mormon à Montréal.
Ouais.
Puis,
c'est bon, mais c'est
très bon.
Ça chante beaucoup.
Oui, oui, ben oui. C'est...
Ça chante beaucoup, mais très.
Moi, tu vois, j'ai été impressionné par Lion King.
Je l'ai vu à Paris.
Parce que, à cause des,
ça m'a énervé
des
aussi.
Costumes.
Oui, ça. Oui, ça m'a un petit peu énervé.
Ouais.
Ouais, un petit peu. Mais je trouvais ça très inventif, très. Je devrais aimer ça. Je suis pas le meilleur client pour ça.
Mm-hmm. La ouais. dernière fois, j'étais allé à New York. Pas la dernière fois, l'autre d'avant, j'étais allé deux fois cette année, mais avec David Bocage et Guillaume Gérard, on est allé voir une pièce de théâtre.
OK.
Qui était comme un... J'ai oublié le titre, je suis pas fin, là. Mais qui était un suspense, genre. C'était écoeur.
Ah ouais?
Écoeur.
Ça chantait-tu?
Non.
Ah, OK.
Non, c'est drôle, ça chantait-tu? Hein? Ah, un peu, mais pas tant que ça. C'était plus une pièce de théâtre.
Moi, si ça chante un peu, je suis correct. Si ça chante à toutes les deux phrases...
T'as-tu aimé La La Land, le film?
Non, non, pas tant que ça. Non. Tu sais, c'est surprenant parce que quand j'étais kid, vraiment, les films de... Il y avait Singing in the Rain, tout ouais. ça, de, les vieux classiques, Sound
c'est
of Music.
Bon, Singing in the Rain.
Singing in the Rain, c'est
cœur. C'était cœur. Hein.
Du gros, gros niveau de danse, là, Gene
son
Kelly.
Ils bon, sont bons, ils sont drôles, ils jouent bien, ils chantent bien. Ça n'a pas d'allure.
Mais on dirait qu'en vieillissant, j'ai moins d'intérêt, puis... Franchement, les gens, moi, en France, ils me proposaient beaucoup, beaucoup, beaucoup ouais. de comédies musicales. Suite à Chicago, ils étaient là. Ah oui, Rousseau, il adore la comédie musicale. Fait qu'ils m'envoyaient tout le temps des scénarios de comédie musicale. J'étais là chez moi avec ça. Pas super fan, finalement. À ma grande surprise, je dirais. Même moi qui chante dans mes ouais. shows, je comprends pourquoi il y en a qui n'aiment pas ça.
Qu'est-ce que tu consommes le
moi,
plus?
Moi, j'irais pas ça? Me voir personne.
Non!
Non, non, j'ai sûrement que j'irai me voir. Je me trouve cute quand même.
Qu'est-ce que je consomme? En culture, tu m'as parlé d'art visuel.
Ouais, ça, j'en ai consommé beaucoup. Mais moi, je suis vraiment un gars de télésérie. Netflix, il n'y a pas grand-chose que je n'ai pas vu là-dessus. iTunes, pas grand-chose que je n'ai pas vu là-dessus.
Qu'est-ce qui t'a marqué le plus? Qu'est-ce que tu as aimé le plus? Ou qu'est-ce que tu aurais voulu jouer dedans? Y a-t-il un rôle que tu as vu, tu as fait hey, ça, je pense que j'aurais été bon pour faire ça? Ou que j'aurais aimé faire ça?
Ouais, que j'aurais aimé faire ça. Plus que j'essaie pas de me transposer dans ce que je vois rarement, jamais, à peu près, à part dans Indiana Jones, là, que je me disais ça, j'aurais vraiment aimé ça. non, là, les séries, écoute, il y en a tellement de. C'est dur tout le temps sortir des séries.
Ça n'a pas d'allure.
Non, mais quand t'es. Tu sais, quand tu.
Ouais.
Faut que je vais m'ouvrir Netflix.
Vas-y.
Devant moi. Puis je vais pouvoir t'en nommer.
Moi, il y a juste un rôle dans ma vie. Puis je me considère pas comédien. Hein. Je pense que je suis capable de jouer un certain.
Conan? T'aurais joué Conan, toi?
Ça aurait été malade.
Ouais.
Mais non, moi, il y a dans. Comment ça s'appelle? Les Intouchables.
Ah oui.
Évidemment, j'aurais jamais joué aussi bien que.
Le rôle d'Omar Sy.
Ouais.
Ouais.
Tu connais-tu? L'as-tu déjà rencontré, lui?
Omar, oui. Oui, oui, tellement. Mais ce gars-là, moi, je l'ai connu avant que la gloire le frappe de plein fouet avec ce film-là. Et souvent, on allait au restaurant de Johnny Hallyday où on croisait Johnny à l'époque.
Yes.
Ben, non. Et Omar, puis il m'avait demandé de participer à ses sketchs aussi, là, tu sais, avec son chum Fred. Puis il me faisait capoter parce que son rire est tellement communicatif. Ce gars-là, il est tellement beau. Là. T'es avec, là, t'es omnibulé par sa présence. Là. Il y a vraiment une espèce de charisme de malade mental. Là. Puis on était tous à se dire, lui, il y a quelque chose qui va se passer avec lui. Et effectivement, il s'est passé quelque chose avec. Mais c'est vrai que c'est un rôle alléchant, ça, quand
c'est
même.
C'est un cool rôle, tu sais, le bad boy, mais qui est gentil. Là. Et,
bah ouais, t'aurais été bon là-dedans.
Mais je suis pas un comédien, mais je me souviens. Ça, c'est le seul rôle que j'ai fait. Puis en plus, il est tellement bon. Là, j'ai vu la version américaine.
J'ai pas vu la version américaine.
Mais en fait, c'est une fois où j'étais allé voir un film au cinéma, puis j'avais encore du temps. Je vais voir un deuxième film après.
Okay.
J'ai fait un,
ouais, ça arrive,
un
ça.
Double dip.
C'était avec Kevin Hart.
Et Bryan Cranston. C'est juste que la version française est tellement excellente.
Tu sais, ça, c'est des gars que je suis, ça. Kevin Hart,
ouais.
The Rock.
Ouais. Hey, là, man, ils ont fait de la grosse promo de Jumanji.
Ça pas de bon sens.
Ils sont cool, par exemple.
Mais par contre, tu regardes. Des millions. Comment ils valent, ces gars-là?
Ah.
et il s'habille quand même comme il s'habille. T'as vu? Ça, ça, les Américains sont fabuleux. My God, payez-vous une styliste européenne ou québécoise? Européenne.
Mais... On a des bons stylistes ici.
Oui, oui, oui. Ils sont souvent européennes.
Ah non, moi, je trouve qu'il y a vraiment des...
Hey, ils ont des kits de la mort. Là. Ça brille de partout. Ça se peut plus.
The Rock avec son veston rose.
Ouais, ouais.
Je l'adore.
Mais celui-là n'était pas si mal, je trouvais.
Ah non, je t'ai dit qu'il était
mais
si mal.
Mais l'autre avec les brillants, cette semaine, il y avait un suit le brillant du début à la fin. Là. Ça n'a pas de bon sens.
Ouais. Y a-tu quelque chose que t'as pas fait dans ta carrière que t'es...
Je bouge un peu le micro. Juste
t'es fou. T'es rendu complètement podcast.
Là, je suis tellement bien. Là,
ça paraît.
Là, je peux faire un autre 3 heures.
Qu'est-ce que t'as pas fait que t'aimerais faire? Y a-tu quelque chose là-dedans?
Attends, je veux quand même te revenir ces séries parce qu'il y en a une qui m'a popé en tête que j'ai adoré. Ah non, mais il y en a tellement. Mais non, je l'ai perdu. Non, Caroline, Steph, come on, wake up. Smell the coffee. Ben non, me revient plus.
Jouer en anglais, l'as-tu déjà fait?
Tu vois, ça, c'est quelque chose que j'ai essayé l'année passée. Je fais un corpo, puis il fallait qu'ils m'ont demandé de faire 15 minutes en anglais.
C'est bon.
Fait que je l'ai fait. Je pense que je t'ai arrêté à 10. Ça a passé, mais ça a marché.
Ça t'as un bon anglais.
J'ai un bon anglais, mais je n'ai jamais joué en anglais. Puis là, je me suis permis... Et j'ai trippé vraiment, tu sais, puis mais c'était une crowd, c'est un peu dur parce que tu fais un show de 45 minutes en français puis 15 minutes en anglais.
Ouais.
Tu le sais que tu parles, il y a 75% des gens qui parlent français. C'est, ouais, c'est un peu chiant.
Tu peux avoir la béquille, si jamais tu cherches un mot, tu peux le dire en français.
Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas tout à fait the real thing, you know? Fait que, mais j'aimerais ça l'essayer. Toi, t'as-tu déjà travaillé en anglais?
J'ai fait du stand-up en anglais peut-être... Plus quand j'ai commencé, j'avais plus de temps, puis j'étais tout le temps dans les bars. Fait que là, un moment donné, quand il y a des Anglos qui ont commencé à jouer en français, moi, j'étais, je peux-tu venir jouer? Y a-tu des soirées où je peux commencer à jouer? Fait que j'ai peut-être joué, tu sais, 2014, 15, 16, j'ai joué peut-être l'équivalent, ouais, surtout 2015-2016, peut-être début 2017, là, j'ai joué peut-être l'équivalent de 15 fois en anglais.
Puis traduisais-tu ton matériel français?
Ouais.
Ouais? T'écrivais aussi des gags? Strictement pour l'anglais ou pas?
Non.
Non?
Il y a un vieux gag que j'avais écrit en français qui fonctionnait vraiment mieux en anglais que je faisais plus en français, que j'ai fait « Ah, ça fonctionne, c'était avec une expression. » Mais sinon, c'était du stock que je traduisais.
Puis t'as-tu des amis anglophones?
J'ai des collègues humoristes anglophones.
Okay.
Je sais pas si tu connais Mike Patterson. Mike, il est drôle. Là. C'est un... no joke, il est humoriste. Et gérant d'un lutteur.
Ben voyons donc.
Mais pas un bon lutteur, genre.
Un mauvais lutteur.
Ben, en tout cas, un lutteur underground.
Ouais,
t'sais.
Ouais, lutteur.
Tu vois le personnage, là, t'sais. Oui, c'est ça. Puis Mike, il est un hostie de casting. Ah, hello, tout le monde, ça va bien! Comme,
ah, ouais, ouais.
Il est un hostie. C'est vraiment du charisme sur deux pattes, okay. Là. Puis il est super attachant. Lui, il avait donné mon nom en 2016, fin 2016, début 2017. Il avait donné mon nom à une de ses amies qui est productrice à CBC pour que je devienne le Bachelor, pour Bachelor Canada.
Pour de vrai? Wow.
J'avais eu un message au téléphone, j'ai dit, mais non, je peux pas faire ça.
C'est... Je dis pour de vrai parce qu'en France, ils disent pour de vrai. Ici, on dit pour vrai.
Moi, je dis pour de vrai.
Tu dis pour de vrai, toi?
Je dis pour de vrai, moi.
OK.
Pour de vrai, qui est un livre aussi de François Havard. Très bon.
Ah ouais?
Oui, que j'ai bien aimé, que j'ai lu à l'époque.
Ça, lui, il faudrait qu'on se revoie, mais ça n'a pas bien été François Havard. Puis moi, j'avais essayé qu'il écrive pour... Ben, on s'était rencontrés, mais...
Ça n'avait pas cliqué.
Ça n'avait pas cliqué tant que ça, là. Pourtant, je sais qu'il... Bon, on n'a même pas écrit, là. On a juste fait un meeting, puis ça s'arrêtait là.
Bon.
Ouais.
Mais...
Non, il m'avait dit... Ça m'avait un peu frustré. Il m'avait dit, « Penses-tu que ça, si t'as pas eu une belle gueule, t'aurais... le monde... Ça aurait marché quand même en humour pour toi. Ça m'avait un peu blessé.
Mais avec raison. C'est parce que c'est des questions qui... Comme... First, on le saura jamais.
Ouais.
Puis comme, deuxièmement...
Moi, j'ai dit, penses-tu si t'avais pas eu ce gueule-là, t'aurais été plus qu'un auteur? Non, j'avais pas répondu ça. J'ai pas eu cette réponse.
Mais à un moment donné, j'avais entendu Claude Bégin. En entrevue, le gars d'Alaclaire, tu sais, le
beau gosse.
Il est beau, mais il est talentueux, ce gars-là. C'est ça l'affaire.
Ouais.
C'est le beatmaker, il fait ses trucs à lui, il travaille avec Carré Moilette, il est super talentueux, tu sais. Évidemment, il parle toujours de sa gueule. Puis,
ouais, mais il joue-tu?
Puis il joue-tu? Hein? Mais je me souviens en entrevue, là, puis aujourd'hui, je le connais, Claude, puis t'sais, c'est un gars super discret, super gentil, tu sais, puis je me souviens en entrevue, moi, ça m'avait quand même fait de quoi. J'avais trouvé ça cool parce qu'il avait dit... Il y a quelqu'un qui avait demandé ça, là. Genre, penses-tu que c'est juste à cause que t'es beau, que ça marche, whatever? Puis il avait juste répondu, tu sais, moi, la raison pour laquelle les gens se ramassent dans ma salle... Une fois qu'ils sont dans la salle.
Ben, c'est ça.
C'est à moi de livrer la marchandise. Puis, fait que, puis je me souviens faire. Il y a raison. Puis c'est pour ça que moi, ben oui, année, j'étais comme. Moi, je sais qu'on me. Tu sais, on me dit pas tout. Je sais pas tout ce qui se dit sur moi quand je suis pas là.
Il s'en dit beaucoup.
Il s'en dit beaucoup, hein.
Mm-hmm.
Claude Meunier, puis Yvon Deschamps, ils vont parler, ils parlent dans mon
tout
dos.
Tout le temps.
Hein? Ouais.
Non, non, mais même Bocage, j'en parlais. On était à la soirée, il était encore jeune l'autre fois. Puis il était faire un truc dans une école. Puis oui. Tout le monde y parlait de toi. Là, oui. Fait qu'évidemment que les filles te trouvent cute. Puis te trouvent beau. Moi, d'ailleurs, on m'a déjà, je me souviens, quelqu'un nous avait comparé, toi puis moi.
Ah oui?
Dans le sens qu'il y avait, il y a quelque chose, vous avez quelque chose en commun à deux époques différentes quand
ah,
même.
Ah, mais je...
Et j'étais là, ah, pourtant, on fait pas.
Non, mais je, quand même, je comprends par contre.
J'ai trouvé ça. Ça m'a plu comme comparaison.
Moi aussi.
Bon, ben c'est bien gentil.
Je le prends. Non, ouais. Mais il y a quelque chose. Puis moi, ça m'avait frappé. Puis je m'étais dit, ben regarde. Parce que moi, on m'a déjà dit, toi, ça marche juste parce que tu parais bien. Puis je trouvais ça. First, je trouvais ça chien parce que je travaille fort aussi.
Ben oui, c'est
puis,
ça.
Je suis pas tout le temps en train de me flatter dans le sens du poil, mais tu peux pas enlever ça.
Une chance parce que toi, t'as du poil.
Je n'ai beaucoup de
ça
poil.
C'est très long, là.
En fait, c'est pas un coton watté.
Ah, exactement.
En ce moment, je suis en chest.
Mais j'osais pas t'en parler.
Puis j'étais comme, c'est juste méchant. Parce que je travaille fort. Je suis pas le meilleur, puis ça, je le sais. Mais crime, je travaille fort, tu sais. Puis j'étais comme, c'est un peu injuste, là, tu sais, que tu dis ça. Puis après ça, quand j'avais entendu Claude en entrevue, je m'étais vraiment dit, ah, mais il a raison, enfin, une fois que les gens sont dans la salle, après ça, c'est à moi de livrer la marchandise.
Mais c'est sûr qu'après, puis tu peux pas les attirer indéfiniment. C'était non. Juste cute.
C'est ça.
Il faut que tu livres la marchandise. Puis effectivement, tu sais, à une époque même, c'était bien plus drôle, bien plus facile de faire rire si t'avais une sale gueule que si t'étais beau gosse. Hein. Mm-hmm. Si t'es beau gosse, t'inspires pas le rire. Non. Tu peux inspirer le fantasme éventuellement,
ouais.
Mais t'inspires pas personne à rigoler.
Ouais, ouais.
Puis elle a pas envie de rigoler pour pas faire une folle d'elle si jamais ça te trouve de ton goût puis tout ça. Fait qu'il y a une espèce de... C'est un peu l'anti-humour.
C'est quelque chose qui t'a joué dans la tête? C'est quelque chose qui t'a freiné? Ou...
Non, non, parce que j'aimais ça, puis j'assumais, puis j'avais du fun là-dedans. Puis je trouvais que ça faisait ma particularité aussi.
Ouais.
Puis que j'opérais, puis je donnais un bon show quand même. Puis qu'il y avait le public était très large quand même. J'avais autant moi, des enfants qui venaient me voir que des personnes âgées. Qui, il y avait vraiment un public. Je me souviens dans ma loge, à un moment donné, j'avais deux dames avec une petite fille, puis ils m'ont donné trois générations pour entrer tout de suite.
C'est le fun.
J'étais là. C'est quand même un gros luxe là, d'avoir ça.
Tes moments sur scène les plus mémorables, je sais pas si des fois c'est trop large, t'en as tellement fait.
Ben, mémorable, je t'avoue, quand j'ai rappé dans une toune de Céline. Céline, le soir de l'an 2000, m'avait demandé de faire sa première partie au Centre Bell, justement. Ouais. Puis
c'était télévisé, ça?
Ouais, ouais.
Ouais.
Et,
c'est gros en tabarnak.
Ouais, c'était gros. Puis à un moment donné, je sais pas, à travers mon gérant, j'avais demandé, moi, peux-tu demander à René Angélil, c'est qui va rapper dans Toune de Céline? Parce que moi, je l'aimais, ce rap-là, dans Unison. Puis René, il dit, ben, on est embêté parce que le gars peut pas venir à Montréal. Fait que Régent, il dit, ben, je pense, Steph, il pourrait faire ça.
Parce que toi, tu faisais la première partie du show.
Ouais.
En humour.
Fait que là, René, il dit, OK, il dit, faudrait le voir, par exemple, et il peut-tu venir nous rejoindre? Puis là, il y avait une répétition hyper cachée. Dans mon souvenir, c'était à Terrebonne. L'autre fois, je n'ai parlé avec Mégo. Il dit, non, c'était pas à Terrebonne. Non, t'as comme dans un sous-sol de maison pour moi. Mais il dit, non, c'était au studio Piccolo, mais je pense pas. Enfin. Je suis arrivé là-bas, il y a toute l'équipe. Écoute, mais c'est super caché, là. Puis là, t'as Céline au summum de sa gloire, et qui est toujours, d'ailleurs.
Ouais,
mais bon,
ouais.
J'arrive, puis là, moi, je dois faire le rap dans tout. Fait qu'elle a fait Unison dans la cave, stick. Puis moi, à un moment donné, je dois rentrer avec « We're living together, or even a part of you, Unison, inside of my heart, not without the feeling that will last forever on a rainy day or even hot weather I cherish. » Puis là, j'étais comme... J'étais tellement concentré quand je l'ai fait, j'avais les yeux fermés, puis à un moment donné, je faisais une espèce de faux mouvement de rapper. J'ai comme crissé le pouce dans l'œil, qui elle s'était approchée pour chanter à côté de moi, tu sais. Mais Puis après ça, je sors, je suis comme sur un gros buzz. Déjà, quand j'ai fait sa première partie, ce soir-là, il m'amène, puis faut que j'attende sous le cœur. Sa scène est en forme de cœur. Puis là, j'attendais, mais le monde ne savait pas qu'il y a une première partie. Genre, c'est moi qui va. Ah oui, il devait s'en douter, j'étais sur l'affiche. Mais bon. Mais il fallait que je pop du stage à travers le. Je sorte la même sortie qu'elle dans
ouais.
du cœur, puis je faisais quand même une demi-heure, ce qui est un peu long. Comme première partie,
shit, oui.
Surtout que. Tout de suite, je me suis rendu compte qu'il y avait 50% du public qui était anglophone. Puis moi, j'avais rien de pour eux autres. Fait que je voyais que c'était. Puis je voyais que le, ben, les portes sont ouvertes, puis le monde rentre, puis c'était vraiment une première partie, tu sais. Fait que j'étais comme. Ah! Puis à un moment donné, je me suis mis en chess pour faire Rico, puis là, après ça, j'ai fait. Oh, c'était peut-être too much, ça. Fait que j'étais pas super content de ma performance. Mais ça a été, mais. Sur le coup, j'étais content. Je fais le rap. Super content aussi. Après ça, je suis dans là, je regarde la fin le reste du show. On me tape sur l'épaule, puis c'est Bryan Adams qui me dit hey, good job, man. Là, j'étais comme, what? Fait que c'était pas mal, une belle soirée. Puis après ça, ils sont tous partis chacun de leur bar. Puis en tout cas, ils m'ont pas invité. Ils sont partis tous ensemble. Le lendemain, moi, je partais pour la République dominicaine, je pense, 2 semaines en voyage. Puis avant, je dis, j'ai hâte de voir les journaux parce que là, je m'étais trouvé tellement bon. Je dis, je sais même pas si on va voir Céline. Ils vont mettre juste ma photo, c'est clair. Puis, au contraire, ils parlent pas de moi nulle part. À part, il y avait dans le journal de Montréal, je pense, le critique à la fin. Dans la presse, ils parlaient pas de moi. Dans la gazette, nulle part. Moi, j'étais sûr. J'ai dit, ils vont en parler, faites une demi-heure, là. Puis dans le journal de Montréal, à la fin, il y avait ah oui, Stéphane Rousseau, lourdeau.
Quoi?
Il y avait un mot, c'était lourdeau.
Non!
Ouais.
Ah!
Là, je suis parti. Là. Je pense que j'ai été les 3 premiers jours en République dominicaine, ma blonde. Veux-tu retrouver le sourire? Tout va bien. Oh, man. J'étais comme tellement. Puis en plus, ça avait été live à TV. Puis là, j'ai regardé juste en venant de voyage. Puis j'ai fait le premier mot qui m'est venu, lourdeau.
Arrête!
Ouais, mais t'as trouvé nul. Puis j'étais triste.
Ta demi-heure au complet était à la télé?
Ouais. Puis j'ai trouvé ça moyen. Tu sais, je parlais trop fort. C'est ça qui était fatiguant. Tu sais, que j'étais pas habitué de jouer 20 000 personnes. Fait que tout le long, je gueulais comme un malade, toutes mes gags. Puis je m'en vais me crisser en chess à la fin. J'étais même pas à mon top, là, tu sais. Steph, franchement.
Comment t'as overcome ce moment-là? Comme, est-ce que t'avais de la misère avec la critique? Est-ce que tu te pardonnais? Est-ce que t'avançais? Est-ce que t'étais capable de. Ou ça jouait dans la tête?
Ça me jouait dans la tête quand même pas mal. Fait que des fois, quand je me souviens cette fois-là, puis il y avait peut-être pas juste lourdeau. Je pense qu'il y avait une autre phrase où il disait, franchement, puis il se permet de jouer de la guitare. J'ai une affaire de même. C'est peut-être une autre critique, ça. Après ça, j'ai jamais rejoué de la guitare. Mais il y avait de quoi, là. Je me trompais dans Horse with No Name, 2 accords. C'était pas pour moi, la guitare, quand même, là. Mais j'en ai 5 à la maison. J'ai toujours aimé la guitare, moi.
Je me souviens encore de ton gag avec Rico. Guitare! T'as ton nom de bas!
Ah, ça a été un gros hit quand même. Ça, j'aimais ce gag-là. Je pense que c'est probablement mon gag préféré à vie que j'ai fait. Elle s'éclatait tellement à terre. C'est-tu que ça me faisait rire?
Il n'y a pas grand-chose de plus fun que de péter une guite.
C'est le fun de
péter. Je l'ai fait la première fois. J'ai fait mon premier galage pourri cet été.
J'étais là, man.
C'est vrai, t'étais là.
Yeah.
T'es gentil d'avoir été là. C'était tellement. Et quand je faisais mon duo avec Vincent Lonard.
J'ai même payé mon billet.
Non.
Non.
Ok, mais là, c'est ça. Et quand j'ai fait mon duo avec Vincent Léonard, où je devenais un peu Denis Barbu...
C'était très bon!
T'es gentil. Ah, c'était un moment sur scène, moi, que je le regardais jouer, puis je peux pas croire que je suis Denis Barbu.
Ah, mais t'étais à la hauteur, maudit. C'est ça qui m'a le plus agréablement surpris dans ce numéro-là, quand même.
Ah, j'ai
que t'assurais, puis t'étais bon en Christ.
Mais Vincent et...
Ils sont fins, ces gars-là.
Ah, ils sont fins, pas un peu. Puis Just a Buy aussi, il écrit avec eux, tu sais, fait que... Ils connaissent tellement bien leur personnage qu'ils m'ont vraiment bien accompagné, tu sais.
Okay.
Ils ont fait « Ah, ça, tu sais, il fait ça de même, tu pourrais jouer comme ça, ça, tu pourrais peut-être faire ça. » Fait que je me suis vraiment senti comme encadré là-dedans. Puis à la fin, je pétais à la guitare. Hey, je l'ai pété pas un peu.
Ouais, ouais, ouais.
Hey, ça y a été, là.
J'en ai reçu un morceau. Non, mais comme Anne-Élisabeth Bossé, quand elle a fait le numéro avec lui au Gala des Oliviers il y a 2 ans, c'était écœur. Hein, fait que tu sens qu'effectivement, ils vous amènent bien dans leur univers. Là.
Ils sont vraiment solides. Là. Ils sont vraiment solides. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite, Stéphane Rousseau?
My God. Je pense de... Qu'est-ce qu'on me souhaite? Ben moi, je pense, je dirais d'être vraiment à bonne place, puis je veux pas dire sur mon X, parce que ça nous énerve un peu, cette expression-là, d'être sur son X, mais de faire les bons choix, je dirais. C'est surtout ça. Parce que c'est dur de faire les bons choix, parce que des fois, tu fais pas les bons choix, mais c'est pas parce que tu veux pas, c'est parce que soit tu te mélanges. Tu sais, souvent, moi, je me souviens, on me disait souvent, écoute ton cœur. Mm-hmm. C'est-tu mon cœur qui me parle? C'est ma tête ou c'est mon portefeuille en ce moment? C'est qui me parle? Puis t'as de la misère à faire la différence. Puis des fois, tu penses faire la bonne décision, puis whoop, tu prends pas la bonne. J'ai pas de plan de carrière. Moi, je me laisse vraiment mener. J'ai hâte de voir, mais moi, je pense de faire. Prendre le temps, faire les bons choix, ce serait the best pour moi.
Ben, j'espère que tu ne regrettes pas ton choix d'être venu ici.
Ah mon Dieu, non. Ça, Jay, c'est un des moments que je vais me rappeler dans ma vie. Dans toute ma carrière, au-delà, ils vont des champs à Cannes et tout ça. C'est toi. C'est ce moment-là qui va briller au firmament pour le restant.
T'es tellement gentil. C'est vraiment généreux de ta part. Je sais que tu n'as pas besoin de faire ça. C'est vraiment, vraiment, vraiment apprécié. Comme... pas un peu. Puis,
je l'ai fait pour l'argent, beaucoup.
Oui.
Ouais.
Justement, il faut que je trouve un crayon pour signer le chèque.
Oui.
Mais, et t'es vraiment un invité de podcast en or.
Oh! Le Mike va m'en vouloir, tu sais, ça.
Ça s'arrange.
Mike, quand tu y vas, tu fais-tu son premier show ou son deuxième show?
Je pense que j'ai jamais fait le deuxième. J'étais allé.
Le deuxième, apparemment, il faut être accroché solide.
Mais en même temps, t'es capable, toi.
Non, mais moi, oui, c'est pas ça. T'as peur jusqu'où? Jusqu'à maintenant, ça reste.
Oui.
In-house. Là,
mais à sous-écoute, je veux dire, tu seras pas le pire. Là.
Non, c'est vrai que...
Tu seras pas le pire. Puis en plus, quand t'es parti, je parlais à Nicole. Pis,
c'est Nicole, lui?
C'est Nicole, oui. Puis je disais...
C'est vrai?
Oui.
Tu t'appelles Nicole?
Ouais, ouais.
Donc, Nicole, j'ai jamais rencontré de Nicole.
Un beau jeune garçon qui s'appelle Nicole.
Ouais. Mais Carole, oui, souvent. Oui. Nicole, jamais.
Carole, José. Mais Nicole, José, c'est une première. C'est mais
Valérie...
Valérie Bourré, qu'on salue, un joueur de hockey, c'est le seul.
Ouais,
c'est le seul. Mais je disais comment.
Joanne Miro. Juan.
Mariette.
Oui.
Il y en a un à cette île.
Clermont. D'un gars. Les gens savent pas.
Peu de gens savent ça.
Oui. Qu'est-ce que tu disais?
Mais je disais comment t'avais été bon aux recettes pompettes.
J'étais assez en forme. Là, j'ai fait Ricardo dernièrement, puis...
Ricardo, il est capable d'y aller aussi.
J'étais un peu dans ce mood-là, mais j'étais pas pompette, heureusement, parce que c'était le matin.
Ouais.
Mais quand même, je lisais les commentaires, les petites madames, ils n'en pouvaient plus de moi. Là. Ils ont changé de poste, apparemment.
Oui, mais c'est sûr que, tu vois, après ça, tu vas chercher une autre génération.
Ouais, c'est ça. Tu peux pas tout avoir non. En même temps.
Mais stresse pas avec sous-écoute, là, et Michel va t'arranger ça. Dis à Michel d'écrire à ton attaché de presse, puis ça va se faire.
Mm-hmm.
Parce que c'est le fun. C'est le fun de faire sous-écoute parce que, en plus, toi, tu sais, il y a un public, tu vas être allumé. Faut pas que tu stresses avec ça, là, parce que Mike est tellement bon.
Ah non, mais ça me stresse pas. Je sais, j'ai envie de le faire. J'ai été le voir, d'ailleurs, dernièrement, sous-écoute, puis j'y ai dit ce soir-là, si t'as besoin de moi, je suis là. Mais il n'y a pas besoin de moi. Mais on va remonter.
C'est quand même drôle qu'ils vont des champs les faits avant toi.
C'est malade, ça.
C'est malade.
Ouais.
Mais bref, merci d'avoir fait mon podcast.
C'est à toi, Jay.
C'est vraiment, vraiment apprécié.
Là, si j'ai une étiquette en bas, j'envoie ça à qui?
C'est vraiment... c'est Mike.
J'envoie ça à Mike.
Mike.
Parfait.
Ouais, ouais, ouais.
Ça marche. Thank you, Jay.
Hey, merci, Steph.
You take care of yourself.
You take care
of
yourself.
J'aime ça, t'as mis ça en anglais. Oui.
Yes!